Salut à toutes, salut à tous. Avant de lancer votre épisode de Tech Café, je voulais juste m'excuser par avance. J'ai eu un plantage à l'enregistrement du podcast. On a un enregistrement backup que j'ai pu activer pour vous mettre à disposition cet épisode. La voix de Guillaume Poggiaspala est pas mal. La mienne est un peu métallique. C'est peut-être aussi dû au fait que je suis enrhumé. Peut-être que le mélange des deux n'aide pas. Voilà. En tout cas, je voulais vous présenter mes excuses pour ne pas avoir été à la hauteur en termes de qualité sonore. Je vous laisse à votre épisode. À très bientôt. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 12 mai 2025 et c'est l'épisode 411, une victime décédée qui témoigne à son propre procès, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Bon, c'est une première qui soulève évidemment des sérieuses questions. On a l'affaire de la fuite d'infos militaires américaines stratégiques sur Signal qui fait des échos. Vous savez, on en avait parlé, mais il y a du suivi à ce sujet. On a aussi un ingénieur du DOGE, le Department of Government Efficiency, qui ne semble pas à toute épreuve en matière de sécurité. Ce même DOGE qui relance un outil automatisé pour licencier à l'appel en mode industriel des milliers de fonctionnaires avec un rebranding savant, vous allez voir. AMD qui souffre encore plus que Nvidia des restrictions d'exportation vers la Chine et Trump qui sabre les politiques d'efficacité énergétique et d'accès au numérique. Entre autres, on parle aussi des comportements assimilés à des addictions aux réseaux sociaux, de controverses sur les IA dans la science-fiction, de restructuration brutale chez CrowdStrike et VMware. Et puis, on aura même un petit mot sur les hallucinations des IA qui empirent, en tout cas qui vont pas en s'arrangeant. Voilà, plein de sujets captivants. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve l'auteur du conducteur de cet épisode, celui qui a sélectionné toutes ces news pour leur caractère particulièrement captivant, mais aussi incontournable pour suivre l'actualité des nouvelles technologies de la semaine, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, plutôt bien cette fois, et donc je suis ravi d'être captivant et que tu sois captivé.
Écoute, captivons-nous en tout cas, bah, les news déjà sont captives.
On a plein d'auditeurs captifs.
Oui, c'est ça, il y a plein d'auditeurs et d'auditrices captives. Les news que tu as collectées sont captivantes, et puis écoute, la manière dont tu les restitues et dont on les discute, je pense, est captivante. Un petit mot, juste pour vous dire, effectivement, cette fois-ci, tu as regagné ta pleine voix. J'ai eu des petits retours de personnes qui louaient ta capacité à affronter l'adversité de la gorge attaquée par le rhume pour faire un épisode de podcast. Je n'en demande pas tant pour cet épisode parce que je pense que je suis moins pris de la gorge que toi, mais j'ai un petit rhume persistant au niveau du nez depuis quelques jours, particulièrement délicieux. En fait, je fais des travaux chez moi. Je pense que je n'ai pas pris toutes les précautions pour la poussière ou peut-être que j'ai chopé un virus du moment. C'est tout à fait possible. En tout cas, je suis sur la fin, je vais me remettre et je suis là pour cet épisode de Tech Café. Merci beaucoup aux personnes qui viennent fouler le tapis rouge pour accueillir comme il se doit les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Je voudrais applaudir même de mes deux mains pour cet épisode. Tyron ou Tyron, je pense que c'est Tyron. À chaque fois, je lui demande comment je dois le prononcer. Et je dis à chaque fois parce qu'il me suit sur mes streams. Tyron, je crois que c'est Tyron. Et il me suit pour Assassin's Creed Shadows, notamment en ce moment, où je prends toujours autant de plaisir à voyager dans le Japon médiéval, même si je sens que la boucle de gameplay, oh, ça va s'essouffler au bout d'un moment. Mais pour l'instant, je continue à prendre plaisir. Et merci aussi à Florian Schwartz qui a renouvelé son engagement. Merci aussi beaucoup à vous qui déposez des avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict ou sur Spotify. Vous contribuez à la notoriété de Tech Café et accessoirement, vous nous faites chaud au cœur quand vous déposez ces messages, sachez-le. Louaru a déposé un avis sur Apple Podcasts et dit « Ce podcast tech, tiens-toi bien Guillaume, je pense que tu n'es pas prêt pour cet avis. Ce podcast tech est le meilleur. » Et il m'est tellement indispensable que je m'y suis abonné. Un immense merci de me permettre à moi, qui suis une accro au silicium depuis l'adolescence, de continuer à décrypter les évolutions technologiques et les enjeux sociaux de notre monde connecté, entre guillemets, en citation, diminuer votre impact sur la planète. Merci beaucoup à toi, Lou, pour cet avis. Ça fait très plaisir. Et puis, vous pouvez aussi déposer, si vous le souhaitez, des commentaires sur techcafé.fr. C'est peut-être le moyen le plus simple hein, de nous faire part de vos retours. Pour vous, vous allez sur le site web techcafé.fr, vous allez sur l'article qui correspond à l'épisode qui a été publié, puis vous pouvez librement déposer un commentaire. Et ça remonte même automatiquement dans la rubrique réaction de Discord. Donc, vous voyez, sans même vous inscrire sur Discord, vous contribuez à l'animation du serveur Discord, mais donc un serveur Discord où on parle de tech, mais pas que. On a pu parler cuisine, notamment ces derniers jours. Ça fait très plaisir d'échanger entre nous et avec vous, évidemment, entre vous et avec nous. Bon, bref, on est tous ensemble, comme vous l'avez compris. Un petit mot juste avant qu'on attaque les news de cette semaine de Gaëtan, qui avait participé à un épisode de Tech Café durant ton absence. Guillaume, il avait parlé de l'installation des panneaux solaires. Et puis, la semaine dernière, avec Pierre-Olivier, on avait parlé d'infos sur la sécurité autour des panneaux solaires. Alors, Gaëtan s'est permis de préciser ce sujet sur le serveur Discord. Il me l'avait dit par message, mais je l'ai évidemment incité à le faire aussi sur Discord. Et je le cite, pour rebondir sur l'info, donc concernant sur les possibles failles pour les onduleurs solaires, il faut savoir qu'il s'agit des gros modèles installés en dur par des professionnels. Ces modèles gèrent la production solaire, mais également la gestion de la consommation du réseau, voire du stockage sur batterie. Par contre, les micro-onduleurs qui équipent et accompagnent les systèmes plug and play ne sont pas connectés à Internet pour la quasi-totalité d'entre eux et ne sont même pas sur le réseau Wi-Fi, juste pour info. Merci Gaëtan d'avoir clarifié, parce qu'effectivement, on partait du principe que tous les équipements de type onduleur qui accompagnent les panneaux solaires étaient sujets à des connexions Internet et à du cloud chinois. Bon, ça permet de nuancer le problème à titre individuel, mais enfin, je pense que les ordres de grandeur de risque qui ont été identifiés et partagés dans l'épisode restent vrais. Sans autre forme de procès, on a plein de choses à partager ensemble, à commencer par, oui, cette espèce de follow-up autour de ce scandale où on avait Guillaume, rien de moins qu'un rédacteur en chef qui a été invité sur Signal dans un groupe d'information militaire confidentielle. Un comble.
Oui, bah, le Signalgate, c'est un scandale à tiroir, comme on les aime. Hein. On en avait parlé, c'est vrai que c'est Pete Hegseth. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec son nom. Pete Hegseth, j'ai du mal avec le mec aussi, mais bref. Le secrétaire de la défense du gouvernement Trump, donc utilisé en groupe Signal, avec J.D. Vance, avec Mike Waltz, entre autres, hein, pour discuter d'une frappe sur les outils. Et puis Mike avait par erreur aussi mis dans le groupe un journaliste de The Atlantic qui a tout balancé, quoi. Alors, qui a déjà reçu énormément d'informations.
C'était un journaliste, je dis rédacteur en chef, c'était juste entre guillemets un journaliste.
Non, je crois que c'était même le rédacteur en chef. Enfin, ouais, mais, de toute façon, on avait appris beaucoup de choses à cette occasion, hein, outre le fait que le nouveau gouvernement avait des pratiques de sagouin en termes de sécurité. Et bon, voilà, il y avait quand même pas mal d'infos. Pas toujours sympa d'ailleurs à l'intérieur de ces discussions, mais c'était que le début. La deuxième couche a été arrivée quand on a su que Hegseth avait aussi partagé des informations militaires sensibles dans un autre groupe Signal qui comprenait entre autres sa femme, son avocat et son frère. Des infos comme par exemple les plans de vol des F-18 en mission au Yémen. Et puis c'est loin d'être fini parce que Pete a utilisé une douzaine d'autres groupes Signal à la place du réseau de communication du ministère, hein, ainsi qu'un service de messagerie privée, genre son Gmail, un truc comme ça, quoi, truc non gouvernemental, hein, pour discuter son emploi de temps, de ses voyages, etc. Bon, il aurait même envoyé carrément des SMS. SMS normaux, hein, donc sans aucune sécurisation. Donc il a du mal avec les protocoles, hein, Pete. Hein. Mais si on avait été dans une situation autre que Trump, n'importe quel autre, Hegseth sera déjà parti, sera déjà sauté. Mais bon, là, c'est un loyaliste. Alors Mike Waltz, par contre, lui, du coup, il n'est pas complètement en synchronisation avec Donald Trump. Bon, il est perçu comme un républicain plus traditionnel, plus interventionniste. Et donc lui, il s'est retrouvé viré de son poste de conseiller à la sécurité nationale, hein, pour être nommé ambassadeur aux Nations Unies.
Il était passé gars pour avoir un joker, quoi.
C'est à peu près l'idée, ouais. Donc, il est dans son placard doré. Bon, vraiment doré, quand même. Il ne faudra pas que le niveau de vie du pauvre petit Mike en souffre trop. Mais bon, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une couche supplémentaire parce qu'en fait, Mike Waltz a utilisé une version modifiée de Signal, modifiée pour une obscure compagnie israélienne qui s'appelle Télémessage, laquelle d'ailleurs était rachetée par Smarsh, qui est une boîte américaine. La version de Télémessage part de l'application de base Signal et ajoute une fonctionnalité d'archivage de messages.
J'ai découvert cette app, moi je ne connaissais pas du tout ça.
Mais personne ne connaissait cette app en fait. Et c'est vrai qu'on parle de Signal quand on parle de cette affaire, mais en réalité, c'est peut-être pas vraiment Signal, quoi. Peut-être qu'on ne parle que de télémessage. Et c'est vrai que sur télémessage, les discussions sont envoyées sur un autre support pour être archivées. Ça peut être simplement un Gmail ou un autre service cloud. C'est dispo pour Signal, mais c'est aussi pour d'autres applis, hein, comme WhatsApp ou WeChat, etc. Et là, patatras, si j'ose dire, télémessage vient d'être hacké en 20 minutes à peu près. Hein. Parce qu'il se trouve, c'est ballot, que les messages extraits de Signal ne sont pas chiffrés entre le moment où ils sont récoltés dans l'application et celui où ils arrivent dans la destination dans le service d'archivage de ton choix. Donc le hacker anonyme a ainsi pu récolter des discussions complètes, alors vraiment des pièces jointes, tout le texte, toutes les métadonnées, tout quoi, pour à peu près tous les clients de télémessage, y compris des institutions financières comme Coinbase, qui apparemment l'utilise toujours, et le gouvernement américain, des données du bureau des douanes, par exemple. Hein. Donc, le hacker a tout révélé. Le hacker, évidemment, il a fait ça pour moi, par exemple, plus pour montrer les problèmes avec télémessage. Il n'a pas exhibé de discussion précisément avec Mike Waltz. Mais bon, Est-ce qu'il en a récupéré ou pas, on ne sait pas, hein, mais c'est tout à fait envisageable. Alors bien sûr, que les plus hauts fonctionnaires américains utilisent des outils grand public ou des applications sécurisées à la pâte à fixe, évidemment, ça va intéresser énormément les gouvernements étrangers, hein, dont les capacités et la sophistication, bah, et voilà, c'est bien suffisant pour pouvoir déjà infiltrer les données de télépessage. Bon, vu le niveau de sécurisation du truc, je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes. Et bien sûr, cette appli se vantait de conserver la sécurité de base de signal, ce qui en fait ne faisait pas. Donc la boîte a décidé de retirer le contenu promotionnel à propos de son appli, et puis elle a pour le moment cessé de fonctionner. Tout ça peut susciter de petites inquiétudes quant à la sécurité globale des infos au Pentagone ou au gouvernement au sens le plus large. On va le voir dans la news suivante d'ailleurs, hein, et il y a le sénateur Ron Wyden qui a demandé une investigation sur les risques de sécurité des applis utilisées au gouvernement en particulier.
Je regardais du coup sur le site de télémessage et puis les petites communications qu'il faut, donc parce que comme tu le dis, j'ai découvert cette app comme énormément, je pense, comme beaucoup de personnes. Et alors, ce qui est fou, c'est que leur promesse, c'est fournir des solutions de messagerie sécurisées et conformes pour les entreprises. Ils aident à archiver les messages et donc être conformes sur tous les appareils réseau. C'est fou de mettre en avant pour des messageries chiffrées de bout en bout une espèce de rustine en plus d'archivage en mettant en avant la conformité. Je sais que dans plein de métiers et dans plein de domaines de travail, l'archivage est une condition sine qua non pour utiliser des services. Mais enfin, archiver en pas chiffré des messageries qui se veulent chiffrer de bout en bout, ça fait un peu bizarre quand même. Mais bon, continuons, Guillaume, sur le climat politique américain avec le regard de la tech.
Oui, parce qu'il n'y a pas qu'au Pentagone qu'on a des champions. Hein. Depuis que le Doge s'est mis à foutre le Bronx un peu partout, une des inquiétudes majeures au niveau de la sécurité, c'est que personne ne sait exactement qui a accès à quoi, et qu'a priori, les employés du Doge ont accès à peu près tout, toutes les infos des services publics, et qui font à peu près n'importe quoi avec. Et c'est un problème, parce que cette totale opacité et ce total manque de protocole, hein, c'est un souci pour plein de raisons. L'une d'entre elles, c'est que si un des employés se retrouve piraté, les données potentiellement confidentielles et super sensibles, qu'il a quelque part, on ne sait pas, sur sa clé USB, sans compromise dans la nature, quoi. Et dispo pour tout le monde, y compris les gouvernements étrangers. Alors, ce n'est pas rassurant, si vous êtes américain en tout cas, de savoir que les données de login, mot de passe d'un employé du Doge se retrouvent dans de multiples bases de données publiques, compilées par des malwares, qu'on peut retrouver donc, téléchargées librement. Au moins, un de ces appareils donc, semble donc avoir été infecté par un malware, et donc on a récupéré ces identifiants. Qui sait à quoi ces infos pourraient donner accès ? On ne sait pas si son login a déjà été utilisé ni combien de fois. Hein. C'est juste que son nom est dans la base. Peut-être jamais, c'est possible. Mais on ne peut pas savoir. Ben, en tout cas, on sait que ça a été rendu public au moins 3 fois depuis 2 ans. Alors bien sûr, c'est le cas de beaucoup de monde. Hein. Pratiquement tout le monde est dans au moins une base, on va dire. Mais bon, pas forcément, avec le mot de passe et tout. Mais bon, ça met en évidence l'importance, en tout cas, d'être très à cheval sur la cybersécurité, sur l'accès aux données, quoi, de rationaliser l'accès aux données, parce que voilà, faire les choses comme il faut, quoi. Alors, puisqu'on parle du Doge, comme tu mentionnais au début de l'épisode, si vous pensiez que les 260 000 personnes qui ont déjà été virées ou qui sont parties d'elles-mêmes vont lui suffire, parce que vous êtes une belle âme, profondément gentille, optimiste, et je vous envie. Mais malheureusement pour vous, chers amis bisounours, sachez que la dernière lubie du Doge, c'est de reprendre à son compte Autoriff, qui est un logiciel qui existe déjà et dont le nom signifie « Automated Reduction in Force ». C'est-à-dire, c'est que c'est un algo pour virer automatiquement des gens, parce que oui, Donald Trump et Elon Musk n'ont pas le monopole de la connarditude. Cela dit, cet outil a été peu utilisé, parce que virer des gens à la hache comme ça, au hasard,
en script,
souvent ça perturbe, voire ça flingue carrément des services entiers ou des organisations, sans déconner. Alors du coup, on appelait des gens qui connaissaient un petit peu le terrain pour voir qui virait sans tout foutre par terre, une méthode qui paraît, si j'ose dire, frappée au coin du bon sens. Mais au Doge, c'est pas trop le style de la maison. Alors on va reprendre Autoriff, on va le renommer. Parce que là, Autoriff, c'est pas très joli comme nom, on va le nommer Workforce Reshaping Tool, on va reshaper les forces. Et parce que ça fait plus cool, et on va lui donner une interface web aussi, beaucoup plus sexy. Parce que il n'y a pas de raison à virer des gens, ça peut se faire avec ergonomie aussi, c'est normal. Comme ça, le Doge, il pourra licencier en masse et continuer à mettre le why, mais confortablement et encore plus vite. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le Doge en particulier ou pas, mais l'administration Trump vient de virer aussi Shira Perlmutter. Qui dirigeait le bureau des brevets. Et pourquoi la Maison-Blanche n'a pas commenté, mais le timing est intéressant parce que le bureau des brevets venait de publier un projet projet de rapport sur l'IA et le fair use, sur l'usage fair use des données pour entraîner les IA. Et un rapport qui était, disons, assez modéré finalement, mais qui comprenait aussi des passages assez embarrassants pour les grosses boîtes de l'IA, puisqu'on y lit par exemple que l'utilisation commerciale de vastes quantités d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour produire un contenu qui leur fait concurrence, en particulier par un accès illégal, dépasse les limites établies du fair use. Donc, il y a quand même une opinion, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Bon, ce serait évidemment un abus de pouvoir manifeste, mais bon, l'abus de pouvoir, ce n'est pas un bug, hein, c'est une feature maintenant.
Bon, le script qui permet de virer par paquet les employés de l'administration américaine, c'est quand même déroutant. Et oui, ce qu'il faut quand même souligner, hein, c'est que ça existait avant, comme tu le dis, mais c'était, bon, déjà, ce n'était pas brandé. C'était pas modernisé avec un nom sexy. Il n'y avait pas un login mot de passe et une UX parfaitement optimisée. Et puis, c'était peut-être aussi beaucoup moins utilisé. Bon, écoute. Tout cela nous amène à faire le suivi des risques de conflits d'intérêts qui sont à peine dissimulés dans cette situation. Toujours avec l'angle technique, hein, vous nous connaissez. Sauf rares exceptions dans Tech Café, on parle de tech avant tout. Et la tech, bah, y a une grosse composante, c'est Starlink. Et Starlink, bah, c'est marrant. Mais il y a des pays qui semblent assez enclins à débloquer des validations de Starlink. Peut-être un fait du hasard, Guillaume.
Écoute, apparemment, les négociations pour des deals sur les droits de douane, il y aura un prérequis implicite, ou disons une condition qui serait vraiment bienvenue, ce serait d'autoriser Starlink dans ton pays. Alors, c'est le Washington Post qui révèle que les ambassades américaines et le département d'État encouragent les pays à accueillir Starlink à bras ouverts. C'est pas explicite. Alors, c'est explicite que tu auras moins de droits de douane si tu fais ça, mais ça montre que le secrétaire d'État, Marco Rubio, hein, a donné des instructions à ses fonctionnaires pour qu'ils poussent les pays à adapter leur réglementation à Starlink. Si des sources indiquent d'ailleurs qu'en Inde, on s'est clairement précipité pour approuver le service après avoir compris, peut-être à demi-mot, on va dire, que ça permettrait de négocier de meilleurs tarifs, quoi. On peut imaginer la même chose pour le Lesotho ou le Bangladesh, hein, qui ont eux aussi tout dernièrement ouvert la voie au service de SpaceX. Du côté de la Maison-Blanche, on se défend de tout conflit d'intérêts, bien entendu. On se préoccupe que du bien-être du peuple américain ou du succès de la nation choisie par Dieu Tout-Puissant face au Mordor, qu'on appelle aussi la République Populaire de Chine. Tout patriote, je cite, voudrait voir réussir une compagnie américaine sur la scène globale. À la suite de ça et de bien d'autres choses, hein, des sénateurs démocrates appellent à une enquête sur les intersections entre les business de Musk et ses actions au gouvernement. Et d'ailleurs, puisqu'on y est par ailleurs chez Tesla, la perspective de voir revenir Musk à quasi plein temps à la boîte, réjouit pas tout le monde. C'est assez marrant. En fait, la grogne des employés semble devenir de plus en plus importante et ça commence à fuiter, ça commence à déborder un petit peu dans les médias. Il y a un salarié qui s'appelle Matthew Labro qui a publié une lettre incendiaire contre Musk. Et il dit que son désalignement avec la mission originale de Tesla a eu des conséquences catastrophiques et presque irrémédiables, hein, pour la boîte, avec ses prises de position politiques, etc. Et grâce à lui, donc grâce à Matthew, on sait par exemple que les nouveaux modèles Y se vendent mal. Ils en auraient des gros stocks qui s'empilent sur des parkings un petit peu partout dans le pays. La production du Cybertruck aussi sera au point mort. On apprend aussi qu'en interne, il y a de plus en plus de grogne contre cet encombrant PDG. Donc il y a plusieurs personnes en fait, hein, qui savaient déjà que des investisseurs voulaient se débarrasser de lui. En fait, il y aura pas mal d'employés aussi. Mais prendre la parole, c'est un petit peu une prise de risque, hein, parce que Mathieu a été quand même licencié direct, lui comme d'autres, hein, qui ont exprimé les mêmes sentiments. Donc il y a une super ambiance. Le retour de Musk à Tesla, ça va donc devenir aussi une chasse aux sorcières. Hein, c'est vraiment que du bonheur, quoi.
Je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Est-ce qu'effectivement, ça va être une espèce de chasse aux sorcières, comme tu le dis, en interne chez Tesla? Ou est-ce que la grogne va s'accentuer? En tout cas, il semble qu'il y ait effectivement des voix discordantes quant au discours de grand Elon chez Tesla. Et quelque part, c'est presque rassurant de voir qu'il y a aussi des contestations. Je doute que ça puisse aboutir. Mais enfin bon, les chiffres de vente sont quand même des arguments qui, à force, doivent faire parler une entreprise. Parce qu'une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise qui ne va pas forcément très, très bien. Bon, une entreprise qui ne vend pas assez, Guillaume, et qui aimerait vendre plus, évidemment, c'est AMD. Et oui, AMD et Nvidia qui sont un peu pénalisés pour l'exportation de leurs produits à destination de la Chine. Et là, a priori, c'est vraiment AMD qui en souffre encore plus, Guillaume.
Oui, parce que outre les droits de douane énormes, alors qui viennent d'être plus ou moins annulés pour 3 mois, puisque Chine et États-Unis ont vaguement abouti à un accord. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, la Chine bénéficie aussi quand même de mesures spéciales, bénéficie entre guillemets, hein, ouais, concernant l'export des puces haute performance pour l'IA en particulier. Et donc, il y a une sorte d'embargo, quoi, et ça fait perdre énormément de fric aux fabricants américains. Nvidia et AMD en tête. Alors, des mesures dont l'efficacité est d'ailleurs discutable parce que les Chinois ont, dans une certaine mesure, des puces de remplacement locales et ils ont aussi des puces bridées. Enfin, en tout cas, ils pouvaient acheter des puces bridées qui étaient quand même pas trop dégueulasses, hein, qu'ils ont achetées avant que Biden ne coupe à peu près tout.
Elles étaient quand même moins intéressante que les
Oui,
fers de
alors c'était
lance.
moins intéressant, mais bon, déjà, il y a la contrebande, parce que bon, faut pas
Évidemment,
déconner, quoi.
les
C'est toujours
circuits
marrant,
parallèles.
d'ailleurs, parce que ça pousse à la créativité, la contrebande, tu sais. Et donc, le PDG d'Entropic qui nous cite, par exemple, des GPU cachés dans de faux ventres de femmes enceintes ou au milieu de homards vivants. Ça me rappelle le mec qui était scotché 300 processeurs un petit peu sur tout le corps. C'est toujours des trucs rigolos. Mais bon, pour le coup, je ne sais pas d'où sort cette info des homards, là. Mis à part la déclaration d'Anthropique, je n'ai rien trouvé vraiment de. Bah, voilà, y a rien qui est sorti de la presse, j'ai l'impression. Donc, Nvidia est d'ailleurs assez sarcastique sur le sujet. Il taxe ces histoires de rumeurs, alors que Dario Amodei est un fervent défenseur des contrôles sur les exportations de puces. Nvidia objecte que ces lois ne devraient pas être utilisées pour limiter la compétitivité. Alors, avec ou sans homard, de toute façon, il y a de fortes présomptions de sociétés écrans à Singapour, hein, qui achètent des GPU à la tonne pour les acheminer en Chine ensuite. Donc, il y a des possibilités de contournement et ça se discute d'ailleurs en ce moment même aux États-Unis, puisqu'il y a un projet de loi qui pourrait forcer les constructeurs à intégrer des systèmes de géolocalisation dans leur matériel. Et d'ailleurs, donc en gros, si une puce, enfin une carte graphique, une GPU se retrouve dans un pays qui n'est pas cool, eh bon, on le désactive à distance, il y aura une kill switch pour les
Pratique.
GPU. Est-ce que ce serait possible? Oui, il y a même une option qui serait de créer une communication sécurisée avec un serveur et d'utiliser les timings de la connexion pour avoir une idée du pays où il se trouve ou d'autres trucs. Enfin, en tout cas, ce serait pas complètement impossible. Bon, il faudra modifier encore les puces afin de mettre en place le service, quoi. Ça fera plaisir à Nvidia et AMD. AMD qui aurait perdu 1,5 milliard de chiffre d'affaires déjà cette année fiscale à cause des limitations à l'export. Hein. Nvidia pourrait perdre plus de 10 milliards cette année, mais ça ne représenterait que dans les 6% de son chiffre d'affaires. Parce que Nvidia est tellement plus gros qu'AMD que, bah, évidemment, ça touche AMD de manière disproportionnée par rapport à son rival. Donc, les États-Unis veulent à tout prix limiter l'accès à leur dernière technologie, mais bon, à quel point ça sera efficace? Bah, quand on voit les modèles d'IA qui sortent d'un côté et de l'autre, c'est quand même pas flagrant. Les Chinois ont accès à une technologie qui est un peu plus ancienne et qui consomme plus. Donc, tu disais, c'est pas pratique, c'est vrai. C'est pas pratique d'avoir des puces qui sont bridées au niveau de la bande passante mémoire ou de la puissance. Mais en vrai, bah, il faut juste acheter plus de puces. Donc, c'est plus chiant à programmer. C'est aussi, ça dépense beaucoup plus d'énergie. Mais si tu ne regardes pas à la dépense, est-ce que c'est rédhibitoire? C'est pas évident du tout.
Ouais, effectivement, si tu veux remplir. Bah bon, j'allais faire une. Moi qui suis dans les travaux, j'allais faire une analogie en volume de béton à remplir, tu vois, etc. Mais je sens que je vais m'y perdre.
En volume
Je
de
sens que
béton, ouais.
je vais m'y perdre, mais on a compris, en tout cas, effectivement, qu'on peut s'adapter, même avec ces contraintes-là. Et puis, comme tu dis, il y a les circuits parallèles, il y a la contrebande, tout ça, c'est très bien. On a exploré le suivi de la guerre commerciale et de ses impacts. Il faut quand même qu'on retourne un petit peu à certaines décisions de l'administration Trump, spécifiquement sur, alors évidemment la tech, mais en particulier sur des choses qui touchent un peu au social, au changement climatique, des choses qui me semblent quand même avoir une ligne directrice assez à droite, Guillaume, quand même.
Non, sans déconner. Ben écoute, parmi la montagne de merde hein, dont Trump asperge le monde et son pays en premier lieu, il y a des morceaux qui sont plus collants que d'autres, quoi. Des morceaux dont l'existence laisse perplexe, hein, laisserait perplexe toute personne dont le cerveau n'a pas été dévoré par un ver parasite. Et cette semaine, elle a été très faste en jolis morceaux, puisque Trump veut éliminer le programme Energy Star. Energy Star, c'est un logo que je connais depuis très longtemps, vous avez
Ouais.
probablement vu passer des tas et des tas de
Parfois, on ne
fois,
sait
parce
pas
que...
ce qu'il y a derrière, d'ailleurs. Enfin, moi, longtemps, j'ai pas su ce que c'était, mais on le voyait souvent.
Oui, on le voit souvent et dehors, on le voit encore. Et c'est un logo qu'on voit depuis longtemps parce que le programme existe depuis 1992. C'est une des rares réussites de George Bush père, d'ailleurs, de mon point de vue. Ce logo sur un appareil montre qu'il est conforme à des standards qui évitent qu'il consomme de manière disproportionnée. Alors, en fait, concrètement, pour chaque type d'appareil électronique ou électroménager, hein, il y a un certain nombre de trucs à respecter. Donc, vous avez une fiche, quoi, enfin, vous avez un petit dossier. Pour chaque type d'appareil, vous avez des consommations maximales à ne pas dépasser, par exemple. Donc, de ne pas consommer trop d'électricité, bah, je ne sais pas, c'est pas complètement déconnant comme idée, quoi, tu vois. D'autant qu'elle n'est pas gratuite, l'énergie. Et que donc, bah, ça économise de l'argent aux citoyens, quoi, tout simplement. Hein. Et ça en a économisé combien? Bah, on a estimé que depuis que le truc est en place, et que ça a économisé 500 milliards de dollars
C'est
d'électricité
génial d'avoir
en
ce chiffre.
33 ans. Alors, on estime qu'un Américain moyen économise d'aller 450 balles d'électricité par an en n'ayant que des appareils conformes à Energy Star. Mais non, l'administration Trump n'en veut plus. Comment tu justifies ça? L'agence qui gère ça, elle coûte 32 millions par an. Et ça fait économiser des milliards par an en électricité. Bon, je sais pas. Mais c'est pas tout. Juste après, Trump appelle le département de l'énergie à annuler ou réduire au maximum toutes les régulations sur l'efficacité de la consommation d'eau. Sur les robinets, les douches, les toilettes, les lave-vaisselle. Et là encore, les Américains la payent l'eau. Hein. Elle n'est pas gratuite, donc ça va alourdir la facture. Comment tu
Et
justifies
même
ça,
ça achète
sérieusement?
très cher à certains endroits en plus.
C'est du délire. Après, la justification, à mon avis, ils s'en cognent, ils sont complètement libres, hein, vraiment. Hein. Trump veut aussi virer un programme d'aide à la connexion de 2021 parce que c'est raciste, hein, je cite, et woke, bien entendu. Le Digital Equity Act, dont le principal problème est d'avoir equity dans le nom, je pense, hein, c'est un programme de réduction de la fracture numérique, hein, tout simplement, hein, et ça subventionne des plans de connexion de plein de natures différentes. Alors, le but final, ben, c'est de permettre à des communautés défavorisées d'avoir une connexion fiable, et donc il y a plein de gens qui en bénéficient. Hein, ça peut être des foyers défavorisés, effectivement, ben, de toute nature, de toute. Évidemment, des prisonniers, ça peut être des handicapés, des vétérans, des gens en zone rurale, isolés. Mais non, c'est raciste. C'est raciste parce que probablement, dans le tas, ça doit aider des Noirs. Donc, c'est un problème, je suppose. Non, parce que c'est ça l'idée, à un moment. Hein. Là, je ne vois pas. Selon Trump, c'est anticonstitutionnel, alors que c'est sa suppression qu'il est anticonstitutionnel. Parce que le programme, il a été quand même approuvé par le Congrès, hein, tout comme Energy Star, d'ailleurs. Bon, donc, il y a encore une bataille juridique qui s'annonce, à moins que le Congrès ne se couche. Hein. Bon, tout est possible. La FCC a pesé de tout son poids d'ailleurs, hein, et le Sénat a fini par annuler une mesure qui dotait les écoles et les bibliothèques d'un fonds, voilà, de petit peu d'argent, pour fournir du Wi-Fi aux élèves ou aux usagers les plus pauvres. Voilà. Eh ben non, voilà, ça c'est pas possible non plus. C'est, je sais pas, c'est woke, je sais pas. Quel beau pays, n'est-ce pas? C'est un pays qui est vraiment de plus en plus super à nouveau, hein, les USA, il n'y a pas de problème.
Et puis, rappelez-vous, hein, on parle aussi souvent des États-Unis parce que c'est le berceau des technologies qu'on utilise aussi. Et que ça a des impacts, même si là, on voit moins directement les impacts sur notre quotidien, hein, que ces programmes-là soient supprimés concernant les subventions pour l'accès à Internet, par exemple. Bon, ben, ça nous touche individuellement, nous,
mais
Européens,
c'est
moins
pas
directement.
Si évident que ça, parce que nous, on... Non, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, pour les trucs, pour les réductions de fractures numériques aux États-Unis, effectivement, de base, on pourrait dire on s'en fout. Bon, OK, c'est vrai. Mais Energy Star,
bien sûr,
Energy Star, il y a des appareils conformes à Energy Star que moi j'ai utilisé en France, hein, plein. Et donc, ben, si Energy Star à part, ben, voilà, ça veut dire qu'en gros, on pourra éventuellement se retrouver avec des produits, nous aussi, et partout dans le monde, qui seront juste moins efficaces. Quoi. C'est,
oui, alors c'est vrai, ceci étant, il y a quand même aussi le fait que les normes ne sont pas... Enfin, il n'y a pas que
les normes
ne sont
pas les mêmes, c'est vrai.
Et il y a aussi des normes en France, en Europe. Et franchement, on peut que se tourner aussi vers cette espèce de souveraineté. Enfin, en gros, de ne pas dépendre des États-Unis pour définir ce qu'est un appareil qui est consommateur d'énergie trop important ou pas. Ça me paraît pas mal aussi. Surtout par les temps qui courent. Et voilà, c'est en ça que je trouve.
C'est
que...
ça qu'il faut voir. Tu vois, ça montre aussi la nécessité de la souveraineté européenne et des normes européennes. Parce que c'est voilà quoi. Et,
complètement.
Comme tu dis.
Ça nous touche plus directement. Allez, on continue parce que là aussi, il y a quelque chose qui nous touche très directement parce que ça transcende les frontières. Ce sont les réseaux sociaux. Guillaume, c'est génial, un comble quand même. Grok qui finalement est peut-être plus responsable que son créateur, que son papa.
Oui, Grok, c'était... Oui, puisqu'on parle de complotisme, d'infox, tout ça, avec l'étude que je vais détailler après. On peut aussi toucher deux mots d'une nouvelle tendance qui n'est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu le croire, hein, et c'est toujours sympa d'avoir une bonne nouvelle. Cette tendance, c'est de demander à Grok si un truc est vrai ou pas. Parce que tu sais que maintenant, on peut invoquer Grok directement sur X, n'importe quel poste, tu demandes à Grok, tu fais arrobas, et Grok, c'est vrai ça?
J'acquiesce quand tu dis tu sais, mais j'y vais plus du tout sur X. Hein.
Oui, moi j'y vais pas non plus, mais bon, effectivement, tu peux faire ça, et donc tu peux poser une multitude, on voit passer d'ailleurs une multitude de questions plus ou moins débiles, et Grok y répond. Ouais. Et en général, bah, il y répond plutôt bien. Alors, c'était pas gagné parce que Grok, c'est fait par XAI, c'était vendu par Musk comme une IA anti-woke qui cherche la vérité, sous-entendu la vraie vérité, donc pas celle des gauchias, hein, la vraie vérité anti-woke. Et bien, il s'avère que non seulement Grok est plutôt modéré, mais qu'il est déjà allé plusieurs fois, hein, contre Musk et Trump et tous les délires MAGA, hein, contre les délires conspirationnistes aussi. Et comme les réponses de Grok restent, elles restent dans le flux, c'est juste une réponse... un tweet, donc en fait, ça reste dans le flux, elles vont en plus jouir du prestige de l'IA, tu sais, c'est l'IA qui dit, ok, ça doit être vrai. Et bien, Grok, du coup, s'avère un outil de debunking assez inattendu, et c'est une sorte de ver dans le fruit pourri de Twitter, quoi. Les IA sont entraînées sur encore plus de textes, qui va évidemment bien au-delà du petit microcosme ultra-conservateur. Et elles auront naturellement une vision du monde beaucoup plus globale, beaucoup moins déformée, du coup. Et donc ça, c'est naturel, évidemment, si on prend le dataset de tout ce qu'il y a sur Internet, quoi. À moins qu'on les entraîne explicitement pour ça, elles seront donc moins biaisées. Bon, c'est là que mon pessimisme naturel reprend le dessus, parce que pour le moment, demander à Grok, c'est plutôt positif, même si c'est sans doute pas parfait, hein, évidemment, mais c'est quand même plutôt positif. Est-ce que ça va durer? S'il est, parce qu'un jour, peut-être qu'il pourrait être fine-tuné, il pourrait être modifié pour coller à la vision MAGA. Et là, ça deviendrait une catastrophe. J'espère juste que c'est pas commercialement raisonnable pour XAI d'avoir un chatbot qui soit à ce point, voilà, qui soit complètement maga, parce qu'évidemment, ben, c'est un petit peu polarisant, on va dire, comme positionnement. Donc peut-être que commercialement, politiser un produit, c'est pas une bonne idée. Cela dit, ça s'est déjà vu, n'est-ce pas? Donc je suis sûr de rien. Enfin bon, toujours est-il que, puisqu'on parle de complot et tout ça, il y a une étude que j'ai trouvée assez marrante, enfin une étude qui est assez intéressante sur les gens qui propagent les théories du complot. Donc, je ne sais pas si tu avais vu le truc comme ça.
Non, je l'ai découvert avec ta bonne sélection.
En fait, bon, je sais pas, bon, c'est, on parle des États-Unis, tout ça, de Trump. Non, mais ça n'a aucun rapport. Hein, c'est juste, c'est arrivé comme ça par hasard total. Mais bon, c'est une étude assez étonnante de l'Université du Michigan qui relie deux comportements qui sont des comportements en ligne qui ne sont pas forcément en rapport à première vue, hein, c'est l'addiction aux réseaux sociaux et l'adhérence à la propagation des théories complotistes, c'est-à-dire l'adhérence aux théories du complot et la propagation de ces théories. Alors, c'est pour le dire vite, parce que techniquement parlant, il n'y a pas vraiment d'addiction aux réseaux sociaux, voilà, en termes de, je sais pas, clinique, quoi. On parle plutôt d'usage problématique des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en anglais, c'est abrévié PSMU. Donc, il y a des points communs avec l'abus de substance, néanmoins, puisqu'on constate que dans le cas d'une vraie dépendance, il y a un impact sur les processus de décision. Parce qu'en général, quand tu fais un truc et que ça couille, bah, tu ne le refais pas, quoi. Si tu as mal, bah, c'est que tu as des conséquences négatives, bah, tu ne refais pas le truc. Chez les addicts, ça se passe moins comme ça. Même avec des conséquences négatives, ils peuvent continuer à avoir le même comportement. Bon, un des auteurs est spécialiste dans ce genre de truc, hein, apparemment, la prise de risque, l'impulsivité et le PSMU, à ne pas confondre avec le PMU, qui lui-même peut amener à des addictions, hein, addictions au jeu d'argent ou au pastis. Du coup, la boucle est bouclée. De là, imaginer qu'un processus de décision altéré par un PSMU peut influer comment tu réagis aux informations que tu reçois, il n'y a qu'un pas, en tout cas, c'est une hypothèse qu'il faut tester. Et donc, pour résumer, ils ont présenté 20 postes de médias sociaux non politiques, hein, donc à des gens. Alors voilà, 10 c'était vrai et 10 c'était faux. Donc, il y avait 189 étudiants, c'est eux les gens, en fait, hein, on leur a filé des questionnaires. Alors là, d'abord, on a essayé d'évaluer sur 189 étudiants à quel point leur cerveau était grillé par Instagram et TikTok, hein, à quel point ils avaient un PSMU, hein, à quel point ils avaient un usage problématique des réseaux sociaux. Et puis après, on leur a posé des questions sur les 20 postes, les 10 vrais et les 10 faux. Et c'est une étude qui est donc d'assez petite échelle, hein, mais qui confirme l'hypothèse selon laquelle ceux qui ont le plus de symptômes de PSMU sont aussi ceux qui sont le plus enclins à croire aux fake news. Ils manifestent aussi plus d'engagement sur ces news, c'est-à-dire qu'ils commentent plus et ils partagent plus. Ils partagent plus en général, d'ailleurs, hein, que l'histoire soit vraie ou fausse. Mais par contre, ils croient aussi plus aux fake news. Donc, il pourrait y avoir un lien entre usage problématique des réseaux sociaux et vulnérabilité à la désinformation.
Ce qui est évidemment un sujet à regarder, nous, à notre niveau aussi, à proximité. Je me posais la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'études comme ça? En fait, j'aurais pu me poser cette question sans avoir de réponse il y a de ça quelques mois. Maintenant qu'on sait que les domaines de la recherche sont massacrés aux États-Unis, je pense qu'il y a un élément de réponse. Mais ailleurs dans le monde, je pense que ce genre d'études, et peut-être qu'il y en a plein d'ailleurs, hein, et que j'en ai pas vu passer, mais ça mériterait que ça continue à être bossé, parce que comme tu le dis, c'est une petite échelle, même si c'est suffisant pour en tirer une tendance. Je suis à peu près persuadé que si on renouvelait des études de ce type-là, on arriverait à tirer peut-être des confirmations ou même d'autres apprentissages. Et ça me paraît tellement central dans les débats et dans les propositions même politiques. On le disait la semaine dernière, et là, ça va montrer à quel point ça nous touche plus directement, les propositions de Gabriel Attal et de Marcel Ruffo sur l'usage plus généralement des écrans vis-à-vis des jeunes. Mais évidemment, les réseaux sociaux sont une composante énorme. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'études de ce type-là pour continuer à nous faire un avis et pouvoir, idéalement, ça c'est un peu un vœu pieux, nous adapter dans le monde éducatif pour prévenir tout ça et puis tenter de lutter contre les dérives. On termine avec les effets de bord, hein, de la tech, Guillaume, avec notamment CrowdStrike. Et puis, il y a un petit mot aussi chez VMware qui a des pratiques commerciales qui font au moins se faire racler la gorge.
Oui, écoute, puisqu'on est dans une section,
Ah, tu vois?
une section déception, c'est ça, c'est la section déception quand même. Hein, c'est le seum. CrowdStrike, désormais, tout le monde le connaît aussi. On le connaît pour de mauvaises raisons. Hein. C'est cette boîte qui nous a gratifié de la plus belle panne informatique que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. On m'avait promis monts et merveilles pour l'an 2000. Ça, il devait y avoir des blackouts, des avions qui tombent, des gens qui meurent par centaines dans les hôpitaux à la dérive. Bah, que dalle, tu parles d'une apocalypse. Mais heureusement, le bug de l'an 2000, il a finalement eu lieu en 2024. Après avoir publié une mise à jour en mousse, CrowdStrike fait planter des millions de systèmes Windows professionnels sans aucune possibilité de dépannage à distance. Donc on estime que rien que les 500 plus grosses boîtes du monde ont perdu collectivement plus de 5 milliards de dollars dans ce petit incident.
C'est énorme.
Et bon, avec un tel pedigree, on pourrait s'attendre à ce que CrowdStrike mette les bouchées doubles hein, sur la sécurité, qui renforce leurs équipes pour bétonner leurs produits, tout ça. Eh ben non, CrowdStrike, il fait comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que comme si rien ne s'était passé, quoi. Il va licencier 5% de ses effectifs, il projette de se reposer toujours plus sur l'intelligence artificielle. L'IA a toujours été constitutive de notre mode d'opération, dit George Kurtz, le CEO. L'IA est un multiplicateur de force, je cite. Oui, mais de quel côté de la force? Celui qui est le plus rapide, le plus séduisant? Pourtant, ce n'est pas celui qui est le plus puissant, Skip. D'ailleurs, les mises en garde d'usage dans le dossier déposé à la SEC par CrowdStrike, hein, qui accompagne son remaniement, contiennent des mentions relatives aux hallucinations des IA, aux problèmes légaux potentiels, aux risques imprévus d'une technologie en évolution rapide. C'est peut-être pas forcément ce que les utilisateurs de CrowdStrike avaient envie d'entendre. Par contre, les actionnaires, sans doute. Parce que le chemin vers les 10 milliards de chiffre d'affaires est clair. Hein, ils font moins d'humains, voilà, apparemment. Et c'est pas la seule boîte hein, qui se préoccupe plus de son actionnariat que de ses clients, manifestement, puisqu'il y en a une autre qui est voilà, évidemment toute trouvée, c'est VMware. Donc, on peut quand même vraiment se poser des questions sur l'avenir à long terme. Parce que depuis l'acquisition par Broadcom, VMware ne propose plus que des abonnements, hein, donc des contrats renouvelés, pour avoir accès aux logiciels aussi bien qu'aux mises à jour.
On rappelle, VMware, c'est de la virtualisation. Hein, c'est
oui, oui,
la capacité de lancer une machine dans une machine. Je schématise, mais dans les usages, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est bien la virtualisation qui est très utilisée par bah, tous les hébergeurs, tout ça, enfin, tous les professionnels, quoi. Et donc, avec les nouveaux, enfin, depuis la question de Broadcom, en gros, les prix ont été multipliés allègrement par 3, par 4, par 5. Enfin, c'est un truc de fou. Si vous aviez une licence perpétuelle, donc vous n'avez pas à payer tous les mois ou tous les ans, VMware nous vous permet de continuer de l'utiliser, mais pas d'avoir accès aux mises à jour. Et par ailleurs, il a envoyé des menaces, VMware, hein, des mises en demeure à tous ceux qui sont restés sous ce régime, sans distinction, les menaçant de poursuite et d'audit si j'utilisais la moindre mise à jour non autorisée. Un message clairement anxiogène, assez systématique et le plus souvent sans aucun fondement, mais qui est sans doute là pour nudger aussi hein, le plus de clients possible pour passer à l'offre la plus lucrative pour VMware. Une manœuvre qui colle financièrement plutôt bien avec l'attitude très très vindicative hein, ces derniers temps de la boîte, qui a quand même accusé Siemens de pirater ses logiciels, qui a été en procès violent avec AT&T, qui a affirmé avoir vu une hausse de plus de 1000% de ses dépenses vis-à-vis de VMware. Alors, les témoignages de clients mécontents sont monnaie courante, tout comme ceux des migrations réussies hein, vers d'autres solutions comme Proxmox hein, ou Nutanix. Nutanix, en particulier, tente de profiter de ça un maximum. Donc, il est en train de raffiner ses propres offres, ses propres solutions de migration, et tout ça a l'air de fonctionner. Hein. Sans surprise, VMware est en train de se faire une réputation absolument désastreuse. Et ce qui est fantastique, c'est que les cadres de Broadcom sont satisfaits, sont super satisfaits. Parce que les marges de VMware, elles sont passées de 30 à 70%.
Ah, ça fait du bien,
ça. Ces coûts d'exploitation ont été divisés par deux.
Ah.
Eh bien oui, en mars, la moitié des employés de VMware étaient licenciés. Et depuis des mois, ouais. Ils pressent leurs clients comme des citrons, quoi. Hein, ils font exploser les prix. Pas étonnant que les marges grimpent. Et sur le court terme, ben oui, c'est sûr que tu vas gagner plus de pognon. Le souci, ben, c'est que quand tu offres un service moins bon à 4 fois le prix, c'est que tu motives quand même pas mal tes clients à partir, quoi. Et tu fais tout pour ne plus jamais en avoir de nouveaux, surtout. Quelle boîte, là, tout de suite, va aller chez VMware si elle peut faire autrement?
C'est clair.
Actuellement, VMware se porte bien parce qu'elle surexploite des clients qu'elle croit captifs. Et c'est sûr que migrer, c'est difficile. C'est un investissement, c'est compliqué. Mais quand tu es une grosse plateforme avec des millions de machines virtuelles, oui, d'accord, c'est compliqué. Mais imaginer que ça ne changera jamais, c'est très hasardeux. Bon, la stratégie de Broadcom est tellement court-termiste que je la trouve même bizarre, en fait. C'est, enfin, pas à mon avis, c'est du suicide, mais bon, on verra.
Une petite morale aussi à titre individuel, hein. Méfiez-vous des offres à vie, des trucs de ce type-là. Ça me fait toujours penser, quand j'entends parler de ce genre de choses, tu sais, les forfaits de SFR, les forfaits à vie, qui, ne serait-ce que parce qu'il y a une obsolescence technologique, au bout d'un moment, voilà, tu passes d'une génération de réseau à une autre, bon... Ça fait échoir l'intérêt de ton abonnement, et ton abonnement à vie est rarement à vie. Donc voilà, les licences perpétuelles, les licences à vie, ça vaut toujours le coup de se poser la question. Mais là, évidemment, ça ne remet pas en question le fait que chez VMware, comment on peut dire, ça pue du cul. Voilà, on peut peut-être dire ça comme ça. Allez, on termine cette section.
Donc, c'est bien résumé.
Ça pue du cul. On termine cette section déception, Guillaume, parce que tu voudrais nous parler un petit peu d'Apple. Alors, comment est-ce que Apple pourrait nous décevoir? Je te vois pas venir là.
Bah, je sais pas si ça va décevoir tout le monde, mais bon, Apple aurait dans ses cartons des projets de lunettes de réalité augmentée, avec et sans écran. La version sans sera donc une sorte d'analogue des Ray-Ban de Meta, qui utilise que le son hein, pour te donner des indications, mais qui a quand même des caméras, etc. Donc Apple aurait des plans de plus spécifiques pour ça. qui serait dérivée de celle de l'Apple Watch, qui pourrait entrer en production de masse hein, fin 2026 ou début 2027. Apparemment, il y a des variantes de ces puces hein, qui seraient capables de gérer plus d'eau. C'est des puces qui sont capables de gérer des flux vidéo, hein, c'est ça leur gros truc. Elles pourraient être utiles aussi dans des versions avec caméra, des Apple Watch et des AirPods. Et là, je me pose la question, attends, des AirPods avec des caméras? Mais pourquoi faire?
Ah.
c'est assez étrange, et pourtant, c'est ce qu'on lit dans l'article qui est lié quoi, dans les notes. Hein, donc. Bon, apparemment, mettre des caméras partout et surtout sur ta tronche, c'est un objectif durable des grosses boîtes tech. D'ailleurs, les Ray-Ban de Meta se vendent bien. Ils travaillent même sur une fonction qui fera rêver petits et grands, la reconnaissance faciale. Enfin, vous rêviez que n'importe quel pingouin dans le métro braque sur vous une caméra de surveillance intelligente capable de vous reconnaître, et comme en Chine, quoi, en gros. Ben voilà, écoute, Meta ne l'a pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Ils en sont même à se demander si la présence d'une petite lumière qui signale quand la caméra filme est vraiment nécessaire. Ben oui, ça sert à quoi, finalement? Ce qui est très amusant avec tout ça, c'est que c'est déjà arrivé, finalement, ce truc-là. Hein. Il y a cette histoire qu'on avait relatée. Hein. D'ailleurs, des étudiants qui avaient interfacé des Meta Ray-Ban avec un logiciel de reconnaissance faciale sur un PC portable, hein, lui-même connecté avec PIMEYES, le site capable de retrouver des gens rien qu'avec leur tête, hein, PIMEYES, et un logiciel donc, qui allait chercher sur Internet après ça, donc toutes les données disponibles. C'est une machine à doxer, hein, dont on avait parlé, effectivement, qui marchait super bien. On pouvait aborder des gens dans la rue, leur faire croire qu'on les connaissait, qu'on était allé au même lycée, ce genre de truc. Un article d'ailleurs détaillé à ce sujet avait été publié sur le site 404 Media, et à l'époque, comble de l'ironie, Meta l'avait très mal pris. Objectant que ça n'avait rien à voir avec les lunettes Meta, qu'on pouvait faire ça avec une webcam qu'on s'attacherait sur le crâne. Hein. Alors oui, c'est vrai, on peut t'attacher une webcam sur le crâne. C'est parce que c'est vrai qu'avoir des caméras invisibles dans ses lunettes, ça n'a rien à voir avec le problème. Bref, de toute façon, si Meta décide de refaire le même truc tout seul, bah 404 il va être tranquille. Mais je ne comprends pas très bien cet acharnement avec lequel Zuckerberg veut à tout prix nous envoyer en dystopie. Quoi. Les caméras de surveillance sur la tronche, ce n'est pas les seuls trucs. Hein. Il a fait une série d'interviews, Mark Zuckerberg, où il parle de sa vision de l'avenir, et c'est quand même assez fou. Quoi. Mark nous dessine un avenir où on aura des thérapeutes robots, des agences, des codeurs robots, des agences de tout robots, et puis surtout plus d'amis robots que d'amis réels. Et il a des chiffres. En moyenne, un Américain a moins de 3 amis. Enfin, c'est lui qui le dit, moi j'en sais rien en fait. Or, la plupart en veulent plus, et la solution, bah, c'est surtout pas de se décoller la tronche de son écran et de sortir boire une bière avec des humains. Non, non, pas du tout, la solution, c'est des amis IA. Vous pouvez avoir 15 amis IA fidèles, qui vous comprennent et qui sont disponibles. Pas comme ces pseudo-copains en viande là, qui ont des gosses et qui vous contredisent tout le temps quand vous leur expliquez comment les élever, c'est mioche. Si on peut accepter à la rigueur qu'on puisse préférer avoir un thérapeute IA que pas de thérapeute du tout, bon, pourquoi pas. Bon, les amis IA, je sais pas, je suis pas complètement sûr. Et puis même pour remplacer des pros, Zuckerberg a des idées qui ne vont pas plaire à tout le monde. Déjà, bon, peut-être pas aux thérapeutes, effectivement. Mais sur le site Strategy, il a carrément dit que Meta allait se transformer en agence de pub. Mais attention, pas seulement en régie pub, hein, où vous achetez de l'espace publicitaire, tout ça. Non, non, il ferait tout. C'est-à-dire, vous venez avec votre produit, et puis eux, bah, ils font de la pub. Mais je veux dire, ils font la pub pour votre produit. Donc vous arrivez avec votre lotion qui fait repousser les cheveux. Et puis, ils passent la pub, donc ils vous font une pub, mais ils font même... donc en gros, ils vont identifier la cible, ils vont créer les visuels, les vidéos, etc. Ils vont même créer des dizaines de vidéos, en fait, hein, selon les cibles qu'ils vont identifier sur le réseau. Ils vont créer plein de spots différents, ils vont les passer donc sur le réseau aux clients qu'ils vont trouver. Après, ils vont faire des stats, ils vont proposer un rapport de tout ça. Tout ce que tu as à faire, c'est à lire le rapport et payer, c'est tout. Donc, ils remplacent tout l'écosystème de la pub sur Internet. Des créations, études de marché, stats, diffusion, tout ça, ce serait très largement automatisé, avec plein d'outils IA, bien entendu.
Pratique.
Alors, on se doute que les grandes marques voudront garder plus de contrôle, hein, avoir plus de qualité, ce genre de choses, mais pour 90% des gens qui veulent juste vendre une crème qui fait repousser les poils pubiens, je sais pas, pourquoi pas, tu vois. Et effectivement, ça pourrait représenter quand même une disruption majeure dans l'univers de la pub. Ou pas, parce qu'il faut aussi que les clients aient confiance, et ça, c'est pas gagné, avoir confiance en Meta.
Une des caméras sur les AirPods, Guillaume, je vois pas, je comprends pas. Ou alors, ils veulent reproduire autant de capteurs sur l'être humain qu'il y en a dans les véhicules dits autonomes, avec conduite autonome, pour proposer quoi, le FSD aux humains. Mais en fait, du coup, on a déjà le pilotage FSD déjà de base. Bon, je vois pas. Je vais me creuser la tête, je ne vois pas. C'est fou cette stat de... D'où elle vient? Stat de 3 amis en moyenne aux États-Unis.
Mais c'est lui qui le dit, je sais pas.
Ça
si
me paraît une... complètement ubuesque. Enfin, je...
Ce qu'il a dit dans une interview. Moi, je sais que je ne pas vérifier.
Bon, je ne nie pas le fait qu'il ait pu le dire, mais d'où il peut sortir ce type de truc et comment est-ce qu'il peut affirmer ce genre de choses? Bon, allons peut-être creuser et peut-être qu'il y a une très grande quantité d'ermites aux États-Unis qui plombent la moyenne, peut-être, allez savoir. En tout cas, nous, on a plus de 3 amis avec Guillaume. En tout cas, on a plein de soutien. On a plein de personnes qui soutiennent Tech Café. Parce que donc avant de continuer avec les autres sujets, on va pas mal parler d'intelligence artificielle. Les sujets passionnants de cette semaine, je voudrais donc prendre un petit instant pour vous rappeler à quel point votre soutien est crucial pour Tech Café. Est-ce que je dois désigner un soutien comme étant un ami ? Ah, quand même, quelque part un peu. Je pense que c'est suffisamment important pour le dire. Mais en tout cas, si vous appréciez les épisodes et que vous souhaitez soutenir activement Tech Café, la meilleure façon de le faire, c'est de nous rejoindre sur Patreon. L'adresse, c'est patreon.com/techcafé. Vous pouvez le faire là dès maintenant pendant que vous entendez ce message et pendant que vous écoutez l'épisode. Vous pouvez même vous y abonner gratuitement et vous serez informé des coulisses du podcast qui peuvent être partagées à l'occasion et avoir quelques infos exclusives. Et puis, si vous en avez la possibilité et si vous désirez aller un petit peu plus loin, vous pouvez prendre un abonnement payant et bénéficier en échange d'un accès direct au flux privé de Tech Café sans la pub, disponible directement dans votre application habituelle. Patreon, c'est une formidable communauté où on trouve plein d'autres créateurs de contenu. Je les mets en avant depuis quelques semaines. Je voudrais par exemple citer Flory, qui est une personne que j'ai interviewée il y a de ça quelques épisodes en format supplément. C'est une artiste qui se définit comme slow et pluriel. Et puis, bah, vous avez a priori bien apprécié cet échange dans Tech Café, cette interview, eh ben, elle est aussi sur Patreon. Donc voilà, rejoignez dès maintenant la communauté des soutiens engagés à Tech Café en allant sur patreon.com/techcafé, que ce soit pour une inscription gratuite ou pour profiter pleinement des avantages exclusifs réservés aux abonnés. Bon, je vous le rappelle, hein, vous êtes désormais ma source principale de revenus réguliers avec mon choix de devenir créateur de contenu à plein temps. Donc ben, voilà, merci infiniment pour votre écoute. Et pour votre précieux soutien, on continue, Guillaume, pour parler d'intelligence artificielle. Je le disais en intro, il y a quand même un précédent qui va avoir été identifié dans le domaine des tribunaux avec les intelligences artificielles.
Oui, alors c'est vrai que c'est une première, je pense. Un mec décédé, tué sur la route aux États-Unis par un autre gars, revient parler en vidéo au procès de son meurtrier. Alors en soi, techniquement, ça n'a rien de bien fou, hein. Sa sœur voulait faire dire un truc à son frère, donc elle a écrit un texte, elle a cloné sa voix avec un truc comme Eleven Labs, probablement. Il y a donc une photo du mec mort, hein, qui a été animé par un service comme Hedra, par exemple, pour que ben, son visage et ses lèvres collent à l'audio. Le résultat, c'est que le mec parle de manière plutôt crédible, avec des expressions faciales et tout, mais le corps est totalement statique, hein, ce qui est d'ailleurs typique de Hedra, qui vraiment n'anime que la tête. Donc le mec s'appelle Christopher, et il a été tué par un certain Gabriel, et dans la vidéo générée, ben, il dit qu'il est, ouais, il est très apaisant, hein, Christopher, il dit que ben, dans une autre vie... avec Gabriel, on aurait pu être amis, tout ça. Bon. Alors le truc, c'est que c'est pas du tout un témoignage. C'est ce qu'ils appellent un impact statement, et c'est ultra chelou. Je suis même carrément choqué en fait que ce truc commence à entrer dans les tribunaux avec le juge par derrière qui dit carrément qu'il a été touché, qu'il trouve ça authentique et conforme à ce qu'il savait du défunt. Mais qu'est-ce qu'il en sait ? On fait parler un mort. Qu'est-ce que t'en sais, ce qu'il aurait dit, le gars ? C'est donc très bizarre. C'est aussi très préoccupant tout ça parce que même si c'est pas un témoignage. Hein, ça a un impact statement, c'est même fait pour ça, ça a une influence. Un document qui est totalement artificiel, qui est donc une totale fiction, hein, a un impact psychologique sur la cour, sur les jurés, et ça pose pas de souci. C'est une fiction. Quelle place ça a dans un tribunal où, il me semblait, hein, on doit établir des faits, pour moi, c'est de la manipulation pure et simple. Et ça peut être utilisé dans les deux sens, pour influencer contre ou en faveur de l'accusé. C'est un délire, d'autant que, bien sûr, tout ça est médiatisé, etc. Bon, je trouve ça très, 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 très chelou. Plus généralement, d'ailleurs, la manipulation de notre psyché par des IA, ça devient une problématique réelle. Dans Rolling Stones, il y a un article sur le phénomène qui devient difficile à ignorer, c'est la GPTose. C'est la psychose induite par ChatGPT. Les témoignages se multiplient, hein, sur Reddit comme ailleurs, d'ailleurs. Il y a des gens qui deviennent maboule en utilisant ChatGPT. Alors, ça prend des formes variées, toujours à peu près le même schéma. Il y a une personne, bon, probablement avec une fragilité sans doute, hein, une prédisposition, on va dire, à ce genre de truc, qui va discuter de manière très intensive avec ChatGPT, qui va avoir tendance à toujours aller dans son sens. ChatGPT, voilà, il va toujours suivre le vent, hein, entrer dans le délire. ChatGPT va vraiment entrer et entretenir le délire. Parce que c'est ce que font les IA, de toute façon. Elles imitent, elles lisent l'ambiance de la salle, et puis elles font pareil. Résultat, le gars et l'IA, ils se montent le chou ensemble, et ils finissent par complètement perdre le contact avec la réalité. Au point de penser qu'on est un prophète, que ChatGPT c'est Dieu, qu'on parle aux anges, qu'on a des pouvoirs, qu'on connaît la vérité de l'univers, qu'on a accès à un savoir secret. Et que ses proches ne peuvent pas comprendre, ou pire, qu'ils nous surveillent, qu'ils nous empêchent d'aller plus loin. Tu vois, il peut y avoir un développement de nouveaux complots délirants, nouvelles conspirations, souvent, Lourine, l'IA va nourrir et alimenter un délire de grandeur, et puis aussi une pseudo-spiritualité New Age, qui part très 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 haut et qui dégénère parfois en bonne vieille psychose, quoi. Alors ok, les psychoses, c'est pas nouveau. Par contre, avoir dans la poche un truc avec qui tu peux parler 24 heures sur 24, de tout, de n'importe quoi, avec un vernis d'expertise, hein, qui te contredit pas et qui au contraire entretient, voire va plus loin dans le délire, en plus ça c'est gratos pour tout le monde, ben ça c'est nouveau pour le coup. Donc sans aller jusqu'à des psychoses aussi évidentes que celles qui sont décrites dans l'article, s'il y en a qui sont vraiment très rigolotes, hein, je vous encourage à les lire, hein, si vous voulez. L'influence psychologique que peuvent avoir les IA, c'est une question réelle, pour nous tous, hein. Ça, surtout que ces manipulations pourraient être intentionnelles. Parce que là, c'est ChatGPT, bon ben voilà, qui part en roue libre. Et puis il y a eu cette fameuse mise à jour aussi, cette fameuse mise à jour qui rendrait ChatGPT encore plus obséquieux, encore plus flatteur, tu vois, qui allait toujours forcément dans ton sens, qui te contredisait jamais, et qui a probablement empiré ce type de soucis. Donc effectivement, l'attitude qu'a le chatbot a vraiment une importance. Mais et bon, là pour le coup, c'était pas du tout intentionnel de la part d'OpenAI, hein. Mais on peut aussi modeler le comportement d'un chatbot. On sait très bien que les modèles chinois ont une vision chinoise de l'histoire. Les IA sont potentiellement des outils d'influence très puissants. On parlait de Grok tout à l'heure, pour l'instant, bah, il est équilibré. Qu'est-ce qui assure qu'il le sera encore longtemps? Je ne sais pas. Donc il y a vraiment des questions qui se posent quand même là-dessus. Hein.
L'arrivée quand même, hein, d'un témoignage par IA dans un tribunal, c'est à mon sens effectivement très grave. Je pense que de s'éloigner du réel pour poser des jugements et des actes légaux, ça me paraît une catastrophe. On peut aller à demi-mot excuser un peu le juge qui peut-être n'a pas le recul, n'a pas la connaissance, ne se rend pas compte. Il a trouvé ça cool. Il était peut-être en train de voir que, bon, trouver ça cool pour un juge, c'est peut-être inquiétant, cela dit. Mais il était peut-être en train de voir une avancée technologique possible. Et maintenant, c'est passé. Donc maintenant, il faut être un peu rationnel, mesdames et messieurs. Il va falloir, à mon sens, très explicitement, je pense qu'il faut interdire, hein, en fait, ce type de d'événement, ce type de témoignage qui n'est pas factuel dans un tribunal. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Maintenant, on a le recul. Il faut agir maintenant. Je pense que c'est important. Guillaume, des IA qui font en plus baisser nos stats de charisme dans tous les RPG qui existent.
Ben ouais, et il faut dire que utiliser des IA, ça peut être mal vu dans certains contextes. Alors par exemple, rien que pour avoir utilisé ChatGPT à l'organisation des prix Hugo. Alors les prix Hugo, c'est très célèbre, hein, c'est les prix des meilleurs.
Rien à voir avec Hugo délire. De l'année, hein.
C'est un délire en fait, c'est Hugo délire. C'est ChatGPT a rien à voir avec le jugement des œuvres, hein. Ils n'ont pas utilisé pour juger quelques romans que ce soit, heureusement, mais rien que son utilisation par des membres du comité d'organisation a fait scandale, quoi. Parce que bon, effectivement, la communauté des auteurs, des lecteurs de littérature en général, pas super favorablement disposée vis-à-vis des IA. Et en fait, ce phénomène de rejet existe aussi en entreprise, et c'est une étude de l'université de Duke qui le prouve sur 4 expériences et 4400 personnes. On peut constater assez nettement, hein, que l'usage de l'IA a un coût social. C'est-à-dire que les gens qui utilisent des IA pour s'aider sont considérés plus feignants, plus remplaçables par leurs homologues. Ils sont aussi considérés comme étant moins compétents et moins zélés. C'est un résultat qui ne varie pas avec les démographies. Donc les vieux comme les jeunes, les hommes comme les femmes, ça reste la même chose. Et en fait, les intéressés le sentent bien, que c'est mal vu, hein, et parce qu'ils ont tendance à ne pas trop vouloir le dire. Donc ces biais se retrouvent aussi lors de l'embauche. Et ils font apparaître d'ailleurs une composante très, très rigolote, très importante, qui complexifie beaucoup le truc. Hein. Ceux qui n'utilisent pas d'IA eux-mêmes ont tendance à ne pas embaucher ceux qui en utilisent. Par contre, ceux qui sont à l'aise avec, ceux qui s'en servent eux-mêmes, vont au contraire avoir tendance à embaucher ceux qui font comme. Donc le tableau est beaucoup plus compliqué. Donc hein, les gens qui utilisent eux-mêmes de l'IA n'auront pas tendance à considérer qu'eux-mêmes ou ceux qui font comme eux sont particulièrement feignasses. D'ailleurs, pour achever de brouiller les pistes, l'impact de l'IA sur le travail n'est pas du tout évident à ce stade. C'est très difficile. Par exemple, il y a une étude danoise qui porte sur la période 2023-2024 qui montre que l'IA n'a, durant cette période, eu un impact qu'assez faible, finalement, sur le travail, sur le marché du travail. Ils ont considéré 11 secteurs et 7 000 entreprises. Et bon,
c'est pas la première fois, hein, qu'on voit se dessiner cette tendance.
Ben pour l'instant, c'est la tendance qu'on a. Donc, les boîtes déploient des efforts pour adopter la technologie, ils testent des trucs. L'impact final reste assez mince. Après, il y a 64 à 90% des utilisateurs qui disent que oui, ça peut faire gagner du temps. Mais quand on le quantifie, ce temps gagné représente que 2,8% des heures hebdomadaires. Et en fait, il y a pire que ça, c'est que pour 8,4% des travailleurs, l'IA rajoute du travail. On pense au travail de révision, hein, de ce que font les IA, parce que voilà, il faut quand même, évidemment, on sait qu'elles ne font pas des trucs parfaits. Et puis pour un prof aussi, il y a des efforts pour détecter si oui ou non le devoir qu'on lui donne est bien fait par un élève, quoi. Alors, il y a des études contradictoires qui ont donné des chiffres de 15% de productivité en plus, donc bien au-dessus des 2,8. Mais ça peut aussi venir du fait que ça dépend des tâches, parce qu'il y a des tâches qui sont plus facilement et plus complètement automatisables. Mais disons que la plupart des tâches de la vie courante en entreprise ne sont que partiellement automatisables et donc demandent quand même plus ou moins d'intervention humaine, ce qui limite la portée, quoi. Donc c'est très compliqué comme tableau en ce moment. L'étude danoise elle-même se focalise sur le tout début des chatbots, hein, parce que voilà, 2023-2024, ben, on n'a pas encore vraiment beaucoup de recul. Donc c'est dur pour l'instant d'avoir vraiment une image claire sur l'impact de l'IA sur le travail pour l'instant.
C'est incontournable quand on parle d'IA, il faut qu'on parle un peu d'OpenAI. Et la semaine dernière, je fais aveu de faiblesse hein, avec Pierre-Olivier Dibman qui m'accompagnait. On a eu cette réflexion, on ne va pas reparler du changement de structure d'OpenAI parce que c'est chiant, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Guillaume, rends-nous ça moins chiant et abordons quand même le sujet parce que c'est notre devoir.
Non, je ne vais pas y arriver. Non, c'est vrai que c'est chiant. OpenAI ne veut plus devenir une boîte privée, mais veut quand même changer de structure. Vous n'y comprenez plus rien, c'est normal, parce que c'est le bordel, hein, tout simplement. Et OpenAI, eux-mêmes, ils ont du mal. Ils ont du mal à gérer le truc, ils ont du mal à faire... Enfin, vraiment, ils ont du mal. Parce que pour le moment, alors vous savez qu'OpenAI, il est bicéphale, hein, donc il y a une ONG et une boîte à revenus limités, donc c'est une LLC, qui, c'est elle qui lève des fonds et qui gagne du fric. Les revenus limités, c'est... Le truc, c'est que donc une ONG, c'est ça a pour mission le bénéfice de toute l'humanité, tout ça, c'est ultra-lala, c'est lourdingue et c'est saoulant. Et la LLC, en plus, elle a des revenus limités, c'est-à-dire qu'elle a des revenus plafonnés. Et ça, c'est lourdingue aussi, et donc OpenAI voulait devenir une boîte normale, pour moi. Et bon, après avoir discuté avec des juristes du Delaware et de Californie et avoir eu sans doute que nous de passionnantes discussions sur le droit des entreprises, ça semble être très compliqué. Alors du coup, ils vont rester comme ça, mais pas tout à fait. Donc ils vont conserver l'ONG, comme avant, hein, mais ils vont devenir une PBC. Une PBC, c'est une Public Benefit Corporation. C'est quoi donc ? Eh bien, c'est un truc du Delaware, en fait. C'est une forme particulière d'entreprise qui est, en gros, une ONG, mais qui fait du pognon. Elle peut avoir des investisseurs, et eux, ils s'attendent évidemment à ce qu'elle fasse du pognon, hein, c'est des investisseurs. Donc, une PBC se donne un but, pour le coup, un but positif pour l'humanité, bah, comme une ONG, quoi. Par contre, je ne sais pas vraiment s'il y a quoi que ce soit qui l'oblige à s'y tenir, pour être honnête. Hein. Par contre, l'histoire de profit plafonné, tout ça, qu'ils ont dans leur structure actuelle, bah, ça va sauter, du coup. Chez OpenAI. Et donc, c'est un point très important pour Microsoft et SoftBank et les autres, d'ailleurs. Mais c'est quand même SoftBank et Microsoft qui ont mis probablement le plus de blé dans l'histoire. Donc, c'est un gros changement de direction parce qu'à l'origine, OpenAI voulait quand même devenir une compagnie publique. Hein, faire une IPO, lever plus de pognon, ouais. Entrer en bourse, tout ça. Les investisseurs devaient avoir des parts de tout ça. Voilà. Mais ça va être plus difficile comme ça. Il semblerait que ça sera un peu plus compliqué. Et puis surtout... Ben, ils vont quand même changer de structure juridiquement parlant. Et donc, il va falloir réécrire tous les contrats. Parce que ben, les contrats, par exemple, que Microsoft a fait pour investir tellement de milliards dedans, ben, c'était des contrats qui étaient relatifs à leur propre structure qu'ils avaient avant. S'ils changent, il va falloir tout recommencer. Et donc, tout changer. Bon. Alors, les relations de plus entre Microsoft et OpenAI se sont un peu tendues hein, ces derniers temps. Alors, combien Microsoft va recevoir de parts, par exemple, dans la nouvelle structure, ce n'est pas du tout évident. Quel accès privilégié ils vont conserver au modèle d'OpenAI, on ne sait pas. Est-ce qu'ils auront un intéressement sur les ventes ? Qu'est-ce qui se passe après 2030, puisque c'est la date limite du contrat actuel pour l'accès au modèle ? Il se murmure que Microsoft pourrait renoncer à des parts de la boîte pour conserver un accès au modèle d'OpenAI après cette date, au meilleur modèle d'OpenAI. Et pour le moment, ça reste un projet et un énorme bordel légal, hein, évidemment, parce que vous imaginez qu'il faut voilà, tout revoir, tout réécrire, est-ce que c'est compatible ? Donc, c'est un bonheur. Rien n'est encore fait, d'ailleurs, et OpenAI va devoir satisfaire tous ses investisseurs aussi pour aboutir. Alors, pourquoi il fait tout ça ? Parce qu'il a besoin de cash, OpenAI. Il a vitalement besoin de cash parce qu'il le brûle littéralement, le cash. C'est bien mignon de faire des super IA, mais il faut les faire tourner et ça coûte énormément de blé. Donc, il a besoin de changer de structure et s'il n'y arrive pas, pour une raison ou pour une autre, il pourrait ne plus trouver d'autres investisseurs. Et donc, il serait plus ou moins à la merci de Microsoft et un peu de SoftBank aussi, hein. D'ailleurs, SoftBank avait mis une condition. SoftBank, il veut injecter à terme 40 milliards de dollars dans OpenAI. Sauf qu'il a dit, oui, alors c'est 40 milliards, mais c'est 20 milliards et 20 autres milliards une fois que tu auras changé de structure et que tu nous auras filé des parts sans doute. Mais donc, ça veut dire que s'ils n'arrivent pas à changer comme il faut, il y a la moitié des 40 milliards qui ne viendra pas, quoi.
Tu parlais du fait qu'OpenAI brûlait du cash pour faire tourner les IA. Je me posais d'ailleurs la question pendant que tu disais ça. Est-ce qu'on a une idée de la proportion entre l'énergie consommée, enfin ce que coûte à OpenAI l'entraînement des modèles et l'exécution, l'inférence, enfin, la mise à disposition, le calcul pour les utilisateurs. J'imagine que c'est impossible de savoir parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font pour l'entraînement.
Ce qui est complètement certain, c'est que c'est l'inférence qui coûte le plus cher.
Ok, parce que le volume fait que de toute façon...
Oui, c'est des questions de volume, c'est obligatoire.
J'imagine. On parle de réflexion un petit peu, Guillaume, sur les comportements de réflexion de nos IA, et puis peut-être un peu de nous aussi.
Oui, cette semaine, on va parler aussi des modèles qui réfléchissent. Alors, il n'y a pas que des bons côtés, manifestement, parce que si réfléchir permet aux IA de résoudre plus facilement certains problèmes de maths et de logique, hein, et de faire du meilleur code, ben, tout n'est pas rose. Dans le rapport technique d'OpenAI qui concerne O3 et O4 mini, on peut lire que ces deux modèles, qui sont pourtant donc plus puissants que O1, qui est plus ancien, ben, ils hallucinent aussi significativement plus. Donc sur un benchmark de 4000 questions à réponse courte, O1 hallucine deux fois moins que O4, que O4 mini, hein, et dans les 10% de moins que O3. Sur un autre dataset qui contient des questions sur des personnalités, c'est même pire. O3 hallucine deux fois plus que O1 et O4 mini presque trois fois plus.
Eh bien.
Pourtant, O1 il est plus vieux, hein, donc il devrait être moins bon, normalement. Alors si on peut imaginer que O4 mini, bah, c'est un modèle qui est plus petit, et qui donc posséderait moins de connaissances, et bien, qui puisse halluciner plus que O1, pourquoi pas? Mais pour O3, c'est beaucoup plus difficile à justifier. Et en fait, il y a une étude de Vectara qui montre par ailleurs que DeepSeek V3, donc qui est le modèle qui ne réfléchit pas de DeepSeek, hallucine moins que DeepSeek R1, qui est le modèle qui réfléchit. La différence est même assez notable. On passe de 50% à plus de 4 fois plus d'hallucinations selon les datasets, hein, selon comment tu mesures.
Plus ils réfléchissent, plus ils imaginent de la merde?
Pas forcément plus ils réfléchissent. Bah, disons, c'est possible. C'est quand même curieux de constater qu'il y a une corrélation entre hallucination et raisonnement. Et la raison n'est pas claire du tout. Alors attention, on se doute que réfléchir plus longtemps, si tu ne connais pas la réponse, ça ne va pas t'aider. Mais de là à ce que ce soit un handicap comme ça, c'était quand même pas complètement évident. D'ailleurs, à quoi servent ces très longues chaînes de pensée, comme on les appelle? Donc concrètement, il y a une étude de l'Université de Pékin qui apporte un début de réponse. Et pour faire simple, c'est une mémoire utilisée pour des variables de travail. Donc les chercheurs n'ont étudié que deux tâches, en fait. Hein. La multiplication à plusieurs chiffres, donc des grosses multiplications, je sais pas, tu multiplies deux chiffres deux nombres de 8 chiffres, par exemple, ce genre de truc, hein, que typiquement bah, tu vas poser, hein, que tu vas faire petit à petit. Et puis un autre type de raisonnement spécifique qui est trouver dans un tableau de nombres le chemin qui maximise la somme des nombres que tu rencontres sur le chemin, sachant que tu peux aller que dans deux directions, par exemple vers la droite et vers le bas. Bon, donc c'est ces trucs-là, bon, bah, voilà, il faut raisonner par étapes, quoi. C'est des tâches qui sont franchement pas passionnantes, mais qui ont une particularité, c'est que les chatbots standards n'y arrivent pas. S'il n'y a pas, par exemple, GPT-4 ou il n'y arrive pas, il est très mauvais dans ce genre de truc. Par contre, les chatbots qui réfléchissent, comme O3 ou comme R1, eux, ils peuvent le faire. Donc, en regardant la chaîne de pensée que produisent les IA en faisant ce truc-là, ben, on constate qu'elles contiennent tous les résultats intermédiaires des calculs, ce qui n'est pas très étonnant. Ce qui l'est, peut-être un peu plus, c'est que si on garde que les résultats intermédiaires et qu'on vire les mots, tu gardes que les nombres, quoi, en fait, si tu imagines qu'il fait la multiplication, bah, tu gardes que les nombres, et bien en fait, ça ne change pas grand-chose de performance du modèle. Les mots, on s'en fout. Et même, on peut fine-tuner un modèle pour n'utiliser que les résultats intermédiaires dans la chaîne de pensée, donc de ne pas tout écrire en détail avec des mots, et le modèle est même un peu meilleur que les modèles super bavards qui détaillent tout. Donc, il semble bien qu'en réalité, le modèle utilise la chaîne de pensée un peu comme un programme qui créerait et utiliserait des variables qui serviront pour calculer le résultat final. Et on peut même aller encore un peu plus loin. Les chercheurs ont essayé de rendre le processus en partie latent, c'est-à-dire que le modèle ne va pas systématiquement sortir un mot, mais faire le calcul dans sa tête, en gros. Alors, certains résultats intermédiaires sont fusionnés concrètement en un token spécifique qui va représenter un calcul latent qui sera donc silencieux, quoi. Et ça marche dans une certaine mesure, hein, mais bon, il y a des limites à la trituration d'un modèle qui n'est pas prévu pour ça, quand même. Hein, parce qu'en réalité, ils font tout ça sur... Enfin, c'est la torture d'un petit modèle Qwen, un petit modèle open source d'Alibaba, et donc le modèle a une tolérance limite, hein, à ce qu'il peut intérioriser, on va dire. Mais ça montre qu'on n'est pas toujours forcé de sortir un mot, quoi. On peut laisser encore le calcul en interne. Donc c'est une étude intéressante qui s'intéresse à des cas particuliers de raisonnement, hein, je vous l'accorde, mais qui montre la nécessité déjà de la chaîne de pensée pour certains processus, puisqu'il y a des trucs que les autres ne savent pas faire, quoi, et qui montre que ça joue le rôle de variable intermédiaire dans un programme, et qui donne aussi un indice sur la possibilité de raccourcir cette chaîne, voire d'intérioriser tout ça en partie.
Autre piste de réflexion sur les IA, Guillaume, le raisonnement avec zéro data, c'est ça?
Exactement, c'est ça qui est intéressant. Parce que bon, créer des modèles qui réfléchissent, c'est pas si compliqué, on en a déjà parlé, on part de modèles classiques, hein, donc qui ne réfléchissent pas, et puis on le surentraîne par renforcement, comme on dit, en tout cas la plupart du temps. Donc, on va, pour le renforcement, c'est qu'on va lui présenter un problème dont on connaît la réponse, hein, et puis on va le récompenser s'il le résout correctement, c'est aussi donne la bonne réponse, on va le punir sinon. Et on va utiliser les problèmes. Hein,
le sucre ou le fouet.
Sucre ou fouet, exactement, on va faire ça plein de fois, donc tant qu'il ne résout pas, ben, on lui file un problème, tant qu'il ne le résout pas, on le fouette, et puis bon, à un moment, ben, on va lui donner sucre. Et, enfin, pas, mais on peut espérer qu'à un moment, on puisse lui donner sucre. Et puis donc, on va utiliser des problèmes dont il est facile de contrôler la réponse, du coup, hein, et pour automatiser en partie ce processus-là. La punition, bah, ça se fait tout seul. Hein. Bah, soit tu as la bonne réponse, soit tu ne l'as pas. Quoi. Donc, soit tu as un coup de fouet, soit tu as un sucre. Il faut quand même établir les problèmes à faire. Il faut quand même calculer la solution. Donc, ça représente quand même un travail, parce qu'il en faut quand même pas mal hein, de problèmes. Il faut faire un gros dataset. Et donc, tout ça, ça prend quand même du temps. Tout ça, c'est de la donnée à produire, quelque part. Hein. Or, le rêve, ce n'est pas ça. Le rêve, c'est que tu laisses cuire un modèle d'IA pendant la nuit et demain, il est plus fort. Tu n'interviens pas. Tu le laisses se démerder tout seul. Tu donnes du temps de calcul et c'est tout. Et ça, il y a AlphaGo qui le fait, par exemple. AlphaGo, c'est donc le modèle qui joue au Go, de DeepMind. Ben, lui, il s'améliore en jouant des millions de parties tout seul contre lui-même. Et il devient un monstre sans que tu aies besoin de rien faire au bout de quelques dizaines d'heures, quelques jours de calcul. Et dans une certaine mesure, c'est parce que les LLM sont entraînés de manière non supervisée qu'ils ont pu devenir aussi puissants. Parce que si tu devais à la main leur dire ce qui est bon ou mauvais, comme quand tu dois noter chaque image pour dire que voilà, ce truc c'est un chien, ce truc c'est un tractopelle, bon voilà, tu vois, pour des trucs qui doivent reconnaître des formes, bah, tu dois donc superviser hein, ce processus d'entraînement à reconnaître les formes. T'imagines l'enfer que c'est si tu pouvais faire ça avec les LLM. Non, là, les LLM, c'est beaucoup plus simple. Tu prends un énorme paquet de texte, tu fais des trous dedans, et puis tu demandes aux LLM de s'amuser à remplir les trous. Et puis c'est tout, hein. Et puis voilà, tu l'expires tout seul quelques semaines avec, pour qu'il parcourt l'énorme paquet de texte qui remplisse tous les trous. Et puis au bout, bah, tu as un truc qui t'écrit des poèmes romantiques et qui est du code en Python. Quoi. C'est quand même magique, hein, ce genre de truc. Et c'est pour ça, hein, que ça fonctionne. Parce que justement, on peut envoyer du coup des énormes paquets de données sans trop se préoccuper du truc. Il n'y a pas le goulet d'étranglement de « on doit avoir des gens qui, à la main, font des trucs ». Donc tout ça pour dire qu'il y a un enjeu à inventer des méthodes pour que les IA s'amusent toutes seules, qu'il n'y ait pas besoin de leur tenir la main. Parce qu'en fait, il faut qu'elles deviennent un peu dégourdies, quoi, leur agent, hein, parce que nous, on ne sera pas toujours là. Hein, elles devront se débrouiller toutes seules quand on sera tous morts à cause de la catastrophe climatique. Et donc, c'est dans cette optique que des chercheurs chinois et américains, donc de Pékin et de Pennsylvanie, ont testé leur méthode Absolute Zero, qui a la particularité de partir effectivement de zéro donnée.
C'est déroutant,
c'est de
ça.
Prendre un machin, hein, donc de prendre un modèle un peu con, un modèle plastique, quoi, un peu débile, qui ne réfléchit pas, quoi, et puis d'en faire une espèce de génie mental qui va guérir le cancer et résoudre la crise israélo-palestinienne. Et enfin, à peu de choses près, hein, je résume un peu. Et tout ça sans avoir à se braquer des milliers d'exemples de problèmes à résoudre, tout ça sans avoir des gens qui doivent produire ces trucs-là. L'idée, c'est donc de créer un environnement de jeu pour le modèle qui va lui-même proposer des problèmes à résoudre. Il va les résoudre, enfin, en tout cas, il va essayer. Il va se fouetter tout seul s'il n'y arrive pas. Et puis s'il y arrive, il va être content. Et puis s'il est content, il va, il va fabriquer d'autres problèmes un peu plus compliqués, puis rebelote, etc., etc. Alors, ces problèmes-là, en fait, c'est des problèmes de codage en Python, parce que du coup, on peut facilement savoir si un programme est valide. On peut savoir aussi quel est son résultat, hein, ce que ça donne exactement. Bah, donc, on a un certain contrôle dessus. Et donc, en réalité, ça va être pour simplifier des problèmes qui vont entraîner le modèle à des types de raisonnements spécifiques, des raisonnements d'induction, de déduction, etc. Donc, le système est récursif. Hein. Donc, tu as un modèle de base, il va commencer avec des problèmes en Python extrêmement simples. Là, tu l'auras tout résolu, il va en créer de nouveaux, un peu plus complexes, etc., etc. Donc, la construction, la sélection, le filtrage et la vérification et la mise à jour des points, la mise à jour du modèle, hein, c'est un entraînement, quoi, tout ça, c'est automatique. Donc, on l'escuillera tout seul. Et alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça marche mieux que le renforcement qu'on utilise par ailleurs, par exemple, dans DeepSeek R1, tout ça? La réponse, c'est non, c'est pas mieux. Par contre, la méthode, elle est compétitive avec ce qu'on utilise d'habitude, hein, c'est-à-dire les trucs faits à la main, quoi, globalement. Mais elle n'est pas meilleure, mais elle est compétitive et surtout, elle n'utilise pas de dataset. Elle part de zéro. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de concevoir un dataset, tu n'as pas besoin du travail de personnes. Quoi. Et du coup, bah, tu peux laisser cuire autant que tu veux. En fait. Donc, ça veut dire que tu peux partir de modèles de base de diverses tailles et puis tu peux les laisser se débrouiller tout seul. Et donc, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins cher aussi, parce que tu n'as pas, voilà, encore une fois, créer un dataset, c'est du travail, donc c'est aussi de l'argent. Mmh. Et puis, tu peux potentiellement les faire tourner beaucoup plus longtemps. Hein, ou si tu n'as que 4000, je sais pas, par exemple, si tu n'as que 400 exos, une fois que tu as fait tes 400 exos, bah, c'est mort, quoi. Tu vois, alors que là, bah, là tu peux en fabriquer des milliers, des milliers, des milliers. Alors, donc, ils ont fait des tests, hein, et la taille du modèle compte en réalité. Donc, ça rejoint d'ailleurs ce qu'on a vu, hein, c'est assez cohérent. À savoir que la puissance du modèle de base est fondamentale pour avoir un modèle de réflexion efficace. Donc, si tu pars d'un modèle de base qui est un peu débile, ben, ça va, donc, cette méthode-là va lui permettre de résoudre plus facilement des problèmes, mais ben, ce sera l'écart, si tu veux, l'amélioration sera moins bonne, sera moins grande que si tu pars d'un modèle qui est déjà assez costaud, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate que partir juste avec du code Python, ça donne le modèle va généraliser, c'est-à-dire qu'il s'entraîne sur du code Python, mais il devient aussi meilleur en maths.
Ah.
Et la planification, les étapes intermédiaires, les essais-erreurs, les énumérations, le pas à pas, en fait, tous ces comportements-là, qui sont utiles à la fois pour quand tu fais du code, mais aussi quand tu fais des mathématiques, ben, c'est des trucs qui émergent naturellement de ce setup. Et donc, ça ouvre des perspectives intéressantes, hein, puisque ça ouvre la voie à des entraînements qui pourraient être effectivement plus longs, plus simples à mettre en œuvre, moins chers, etc., que ce qu'on a aujourd'hui.
Hyper intéressant de voir que décidément le champ de la recherche pour l'IA et pour l'entraînement de ces modèles progresse de semaine en semaine, hein, à chaque fois on en parle, donc c'est captivant. Par contre, il faut pouvoir les comparer, il faut pouvoir les mesurer, il faut savoir, Guillaume, qui a la plus grosse. Et un nouveau scandale semble peut-être pouvoir se dessiner après celui des moteurs et des performances benchmark des processeurs. Peut-être qu'on a un petit début de scandale sur les benchmarks des modèles de langage.
Ben un petit peu, c'est vrai que tester les IA, c'est important, en particulier comment tu testes donc un chatbot quoi, au modèle de langage LLM. Ben c'est compliqué parce que voilà, comment tu peux savoir si le tout nouveau chatbot de chez Meta ou Anthropic ou Alibaba, il est meilleur que l'ancien? Comment tu peux les comparer entre eux? Donc il y a toute une batterie de tests pour ça, bien sûr, il y en a plein, hein, mais effectivement, tu peux pas être sûr que les IA n'ont pas vu, en tout cas à 100%, que les IA n'ont pas vu ces tests pendant l'entraînement, parfois c'est difficile. C'est des QCM souvent aussi, hein, parce que ça doit être simple à vérifier automatiquement, du coup c'est un peu artificiel. Et donc devant ces questions, il y a des étudiants de Berkeley qui ont eu l'idée en 2023 de créer une solution crowdsourcée à ce problème. Donc il y a des gens qui viennent sur un site et qui vont confronter les IA entre elles, juger des matchs, des duels même en fait, entre chatbots. Donc sur LM Arena, on pose une question, que, en tout cas c'est vous qui posez une question, voilà, vous mettez votre prompt et puis on vous présente la réponse de deux chatbots anonymes et vous votez pour la meilleure réponse. Donc, il y a des millions de duels successifs comme ça qui vont servir à créer un classement Elo, comme aux échecs, hein, des chatbots et avoir une idée duquel est le meilleur. Alors, c'est une très bonne idée, pas une panacée non plus. Qu'un humain préfère une réponse plutôt qu'une autre, c'est aussi une question de goût. C'est pas forcément rationnel. En gros, on va récompenser les meilleurs catchers, quoi. Ou les modèles les plus sympas, ou les modèles les plus drôles. Donc, c'est un test qui a quand même ses limites. Et selon une étude de Cohere et du MIT, il y aurait même d'autres problèmes. Le principal étant que LM Arena permet d'utiliser plein de modèles privés et de ne publier que le meilleur. Meta a usé et abusé de cette possibilité. Hein. Il a mis en ligne 27 versions de Llama 4 pour sélectionner celle qui plaît le plus et ne publier que celle-là sur LM Arena, qui est par ailleurs d'ailleurs différente de la version publique qui est téléchargeable en plus. Google a testé 10 variantes de Gemini. Apparemment, OpenAI, Nvidia et Alibaba, donc les Chinois d'Alibaba, Stepfen et Reka, ont eu beaucoup moins recours, voire pas du tout recours à ce stratagème. Donc les grosses boîtes n'hésitent pas, en gros, à fine-tuner, à modeler leur IA spécifiquement pour être agréable en conversation et avoir un super score sur LM Arena. Et il semble aussi que le site fasse trop de promotion pour les grands modèles propriétaires par rapport aux petits modèles open source. Ce qui veut dire qu'ils sont tout simplement beaucoup plus souvent proposés, et ce qui fait que finalement les modèles open source ont juste beaucoup moins d'échantillons et que donc leur mesure est moins fiable et qu'ils ont aussi moins de chances de briller, le cas échéant. Donc OpenAI et Google représentent d'ailleurs presque la moitié des tests. Et si tu rajoutes Anthropic et Meta, on n'est pas loin des trois quarts. Alors, ça ne veut pas dire que LM Arena n'a pas de valeur du tout, hein, mais ça veut dire aussi qu'il faut bien être prudent et pas considérer que c'est le critère ultime quoi, pour juger un chatbot.
C'est un indicateur, mais ce n'est sans doute pas la perfection et ça va être difficile hein, de trouver quelque chose parce que la subjectivité, évidemment, rentre beaucoup en compte. Enfin bon, il y a des suggestions qui sont évoquées, effectivement, ne serait-ce qu'exposer un petit peu plus les plus petits LLM open source, ça peut être intéressant. On enchaîne et on va commencer à conclure cet épisode avec la rubrique jeux vidéo. Guillaume, juste avant qu'on se lance là-dedans, ça fait quelques semaines qu'on ne s'était pas parlé régulièrement. Est-ce que tu as du temps pour jouer aux jeux vidéo? À quoi tu passes ton temps vidéoludique en ce moment, Guillaume?
En ce moment, je ne joue plus. Ça fait
plusieurs
semaines que je ne joue plus. Ouais.
Mon Dieu, d'accord. Donc, tu n'as pas succombé à la hype, mais je sais que tu ne succombes pas au hype de Clair-Obscur.
Non. Alors oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Bon, j'y jouerai sans doute un jour, mais pour l'instant, je ne joue pas.
J'en suis sûr.
Ça va revenir.
Écoute, en attendant, comment ?
Ça va revenir, j'y crois.
Oui, ben, j'y crois aussi, et je te le souhaite. En attendant, on a des vieilles Switch, hein, vieilles avec des guillemets, mais bon, quand même, à date 2017. En tout cas, des anciennes Switch, pas des Switch 2. Est-ce qu'elle pourra encore fonctionner longtemps, Guillaume?
Oui, alors quelques news Switch et donc pas Switch 2, parce que la Switch première du nom va continuer d'accueillir des jeux. Nintendo assure qu'il publiera lui-même encore des jeux sur la machine en 2025 et 2026, ce qui n'est pas si étonnant si on considère qu'ils en ont vendu 100 millions et que donc 100 millions de clients potentiels, c'est quand même tentant.
Enfin, ce ne sera sans doute pas les derniers grands titres et ce sera peut-être des adaptations du Petit Poney ou non?
Eh bien, pas du tout, puisqu'on sait que Metroid Prime 4 arrivera sur Switch,
de même que
Pokémon Legend AZ. Le prochain Risen Event est Tomodachi Life. Et bon, ça, c'est que les jeux first party. Il y aura probablement, effectivement, des jeux tiers qui arriveront, qui continueront d'arriver sur Switch, c'est certain. Et puis bon, de toute façon, vu le prix des consoles et des jeux de la prochaine génération, c'est sans doute une bonne idée pour tout le monde. D'ailleurs, est-ce qu'on aura un phénomène PS4? Tu vois, quand on avait plein de jeux cross-gen au début de la PS5, peut-être. Ça a ses avantages, hein, mais bon, ça veut aussi dire que les développeurs n'auront pas la liberté de passer à autre chose. Tu vois, qu'ils seront un peu bridés dans leur expression, si tu veux, pour utiliser la pleine puissance de la Switch 2, comme d'ailleurs ils l'ont été pour la PlayStation 5, puisqu'on constate quand même que les jeux qui sortent actuellement sur PlayStation 5 sont quand même beaucoup plus beaux que les jeux du début de la... début du règne de la console. Parce que quand tu regardes le dernier trailer de GTA 6, tu vois, ou...
Voilà. Assassin's Creed Shadows, il est magnifique.
Et Assassin's Creed Shadows même, d'ailleurs, il est très très beau. Donc voilà, il y a quand même le cross-gen, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Puis en parlant de développeurs dont la liberté est entravée, on peut parler de Palworld, donc de Pocket Pair, hein, donc leurs développeurs en particulier, qui sont obligés de faire des changements assez nets à cause de procès avec Nintendo. Un procès en violation de brevet qu'ils envisagent de perdre, apparemment, puisque Palworld a éliminé déjà donc les boules, enfin des sphères, comme ils les appelaient, pour invoquer les pals, les monstres du jeu, quoi. Et dans le prochain patch, on ne pourra plus voler avec les pals. Il faudra un planeur pour ça, parce que voilà, Pocket Pair l'a avoué, hein, c'est dans le cadre du procès, quoi, globalement. Donc Pocket Pair conteste les brevets de Nintendo qui sont trop vagues, trop larges, mais ils se préparent quand même à ne pas gagner, manifestement. Parce que Nintendo, il a l'air sympa comme ça, avec sa moustache et sa casquette, mais en fait, c'est plus un parrain de mafia qui te pète les genoux qu'un jovial plombier. Hein. D'ailleurs, on est probablement sur un abus de pouvoir encore, puisque Nintendo envisage de briquer, de rendre inutilisable à distance des consoles qui utiliseraient des jeux piratés ou des applications non disponibles dans l'eShop.
Incroyable.
C'est pas encore dans les conditions d'utilisation en français, mais ça l'est en anglais déjà. Sur le territoire américain, a priori, il va se réserver le droit de rendre les services de compte Nintendo et ou appareils Nintendo concernés inutilisables de façon permanente, en totalité ou partiellement, je cite. Hein. Donc voilà, détruire ta console à distance, c'est quand même sympatoche. Là, on s'interroge, hein, mais pour qui tu te prends, Mario Corleone? Se dire, c'est ma machine, je l'ai acheté, quoi. Si j'ai envie de mettre un émulateur T92 dessus, c'est mon droit, qu'est-ce que... Et bon, alors, si tu pirates, tu peux être puni parce que tu pirates, mais face à ta console, ça reste ta console. Bon, évidemment, maintenant, de toute façon, tu dois être en permanence en ligne, hein, pour jouer à tes jeux sur clé, sur Switch 2, par exemple, tu vois, donc t'as pas trop d'échappatoire. Il est probable que si Nintendo s'amuse à ça, il se retrouve avec des class action aux fesses, quand même, hein, parce que, à mon avis, ça a pas très très bien passé aux États-Unis, ce genre de truc. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui s'empilent avec Nintendo ces derniers temps. Et c'est vrai que la sortie d'une nouvelle console ne m'a jamais autant donné envie d'acheter un Steam Deck.
tu vois, comme quoi, ils vont arriver à te convaincre. C'est vrai que c'est un peu les tueurs des tribunaux, hein, ces derniers temps. Sans doute qu'il y aura une fin à tout ça, mais bon. Un acteur média du jeu vidéo qui est revendu, et en général, c'est jamais bon signe. Là, ça s'avère probablement pas être bon signe non plus, Guillaume.
Oui, c'est un site où j'allais, plus trop dernièrement, mais c'est un site où j'allais, que je connaissais un peu régulièrement. C'est vrai que j'évoque d'ailleurs des sites célèbres qui sont revendus, et pas pour le meilleur, hein, comme CNET ou Vice, qui ferme carrément d'ailleurs. Mais cette fois, c'est Polygon qui est revendu à Valnet. Alors Valnet, c'est pas le docteur Valnet, c'est pas le mec des huiles essentielles, hein, parce que là, ça sent pas bon du tout, ça pue même. Valnet, c'est un gros groupe média déjà épinglé pour ses conditions de travail. Hein. Pas de respect du salaire minimum, pas de respect des heures sup. Remplacement des journalistes par des sous-traitants sous-payés. Quand je dis sous-payés, c'est vraiment sous-payés. En 2025, un pigiste pour Collider, qui est donc un des sites que Valnet possède, il était payé $40, alors qu'avant, c'était $250.
Ah oui !
Et oui, ben oui. Non, mais tout le monde est complètement surexploité dans cette boîte. Et si tu l'ouvres, la boîte te blackliste carrément. Et bon, allez, c'est bon. Polygon lui-même, hein, qui vient d'être racheté, a perdu ses cadres dirigeants et une bonne partie de ses effectifs. Valnet est connu pour être une sorte de gros pourvoyeur de fermaclic. Polygon appartenait à Vox Media, qui possède aussi The Verge d'ailleurs. C'était un site de jeux vidéo reconnu, hein, mais aussi une source pour les comics, le cinéma. Et donc le voir tomber chez ce que d'aucuns considèrent comme le pire site de médias qui existe, C'est assez triste. Les syndicats de chez Vox, d'ailleurs, sont catastrophés. Bon, voilà, c'est vrai que c'est triste. Hein. Le site a 14 ans, c'est pas un âge pour mourir.
Non, effectivement, c'est pas du tout l'âge. Il y en a un qui ne mourra pas, au moins dans les envies et dans les espoirs, c'est Half-Life 3, Guillaume. Je ne pensais pas que tu sélectionnerais cette news, pour être honnête avec toi. J'avais vu passer, je ne pensais pas que tu la sélectionnerais.
Non, mais je sais que tu as mis Half-Life, écoute. Ah bah oui. C'est vrai que ça ne paraît pas possible. Et d'ailleurs, c'est juste des rumeurs, mais figurez-vous qu'on reparle d'Half-Life 3. Il se murmure même qu'il serait jouable du début à la fin. C'est à prendre avec des pincettes, des très très grosses pincettes. Bon, il semblerait que HLX soit le nom de code d'Half-Life 3. C'est un truc qui a été vu, c'est un code qui a été vu dans des updates pour Deadlock et Dota 2. Il y a un concept artiste qui aurait dit dans un podcast qu'il était dans la salle où on était en train de faire Half-Life 3. Half-Life 3 qui sera la fin des aventures de Gordon Freeman, hein, enfin, heureusement. Un autre habitué des rumeurs Valve, d'ailleurs, Tyler McVicker, aurait parlé aussi dans ce live stream d'Half-Life 3. Il pourrait être annoncé cet été et sortir cet hiver, donc sortir avant Star Citizen, c'est assez incroyable.
Ouais.
Bon,
si,
lui, crois.
Si Star Citizen sort un jour.
Est-ce que tu y crois, toi?
Parce que, Half-Life c'est... 3 Non, j'y crois.
Tu as envie d'y croire.
Ouais, oui, j'ai clairement envie d'y croire. Et après, j'ai toujours pas joué à Half-Life Alyx. Qui a l'air d'être une expérience VR incroyable et à la hauteur de ce qu'on attend d'un Half-Life. Donc, j'ai envie de dire presque Half-Life 3 sortirait vite, que ça m'angoisserait parce que tu vois, j'aurais pas fait Alyx encore. Mais peut-être, dans le fond, si je devais mettre un billet, je miserais pas sur le fait qu'il sortirait parce que ça reste trop des rumeurs. Mais j'ai très envie, effectivement, j'ai très envie. Je crois qu'il y a Black Mesa qui est en promo en ce moment. Hein, vous savez, le premier Half-Life refait par une équipe indépendante sur Steam. Je crois qu'il a 2 balles en ce moment, donc c'est peut-être le moment si vous vouliez le faire. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta veille technologique pour cette semaine, pour Tech Café. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses, qu'on a contribué à rendre le moment passé ensemble plus agréable et plus divertissant. Si c'est le cas, patreon.com/techcafé. Et à minima, évidemment, venez nous rejoindre sur Discord et peut-être même parler de Tech Café autour de vous. C'est hyper important, hein, ce bouche à oreille qui fait que vous recommandez autour de vous l'écoute du podcast, que ce soit au travers de réseaux sociaux, auprès de vos proches, de vos amis, de vos collègues. C'est extrêmement précieux. C'est un levier très important de notoriété. Donc, merci par avance d'y contribuer si vous appréciez le podcast. Et puis, bien évidemment, il y a un truc qui est assez incontournable, c'est qu'on peut nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver?
Écoute, moi, tout ça, ça m'a donné envie de discuter un peu avec Grok, qui m'est devenu un peu plus sympathique qu'avant.
Ah bon?
Je dois avouer que je n'avais pas une très haute opinion de Grok avant. Ah. Finalement, je vais bien tester.
Déjà, quand il commence à rappeler que Elon Musk dit de la merde, finalement, il a trouvé les arguments pour te séduire. Très bien.
C'est vraiment ça.
Vous me retrouverez dans Tech Café, bien évidemment, mais vous me retrouverez aussi de temps en temps sur Twitch, bien trop souvent, diront les mauvaises langues qui auront peut-être raison, les notifications de live où je joue à Assassin's Creed Shadows en ce moment, c'est sur Discord. C'est une rubrique sur Discord, soit il faut la muter si jamais ça vous est insupportable, et je peux tout à fait le comprendre, vous désactivez les notifs, soit si jamais vous êtes épris du Japon médiéval. J'imagine que certains ont imaginé qu'ils étaient épris de moi, mais non, j'allais même pas là-dedans, mais épris du Japon médiéval et surtout de ma capacité à faire des photos, parce que je fais des photos des paysages, c'est magnifique. Je sais pas si le gameplay va pas me lasser prochainement, mais en tout cas pour l'instant je savoure. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.